Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Comment la répartition de notre température corporelle peut-elle nous aider à monitorer la santé de notre métabolisme? Pourquoi manger du foie de ruminant chaque semaine, même si vous êtes végétarien? Quels sont les bénéfices de l'exposition à la lumière rouge? Physiologie de l'exercice, Will Jensen est surtout un explorateur des sciences de la nutrition, de la santé et de l'entraînement. Sa soif insatiable de connaissances l'a poussé à remettre en cause certains paradigmes existants, comme les bienfaits supposés du jeûne intermittent ou du stress hormétique. Mais loin d'imposer sa vision, il propose une voie de réflexion richement étayée, qui, j'en suis sûr, passionnera chacun d'entre vous. Perché dans la montagne, un endroit qui diminue les risques de cancer, Will élève quelques poules qu'il qualifie d'actes politiques puissants. Là, dans le calme de ses vertes prairies suisses, il explore aussi les voies d'élévation de l'âme, par le yoga, la méditation ou la DMT. Une conversation aussi riche en enseignements pour le corps que pour la vie. Belle écoute! Salut Will!
Salut, comment tu vas?
Eh bien, écoute, je suis en pleine forme, je suis très content de te recevoir aujourd'hui après quelques semaines de rame.
Merci pour ta patience, mais ravi d'être ici aussi, c'est trop cool de m'avoir invité.
Ouais, bah écoute, en fait, j'ai découvert ton travail justement dans un podcast parce que tu étais passé sur Biomécanique Podcast, il me semble. Ouais. Et j'avais adoré ce podcast. Je trouve que c'était hyper intéressant et je me suis dit putain, ce gars est vraiment génial. Et du coup, par curiosité, alors que je te disais en intro que j'utilise jamais les réseaux sociaux, j'étais regarder un peu ce que tu faisais et j'ai vu sur Instagram que tu utilisais une lumière rouge. Chose qui est assez peu développée en France, que j'utilise moi-même, et ça faisait longtemps que j'essayais de trouver un invité pour en discuter justement sur le marché français, donc en francophone, et je me suis dit c'est parfait, je vais lui proposer d'enregistrer ensemble, donc ça sera un des sujets que j'aimerais aborder avec toi, mais il y en a évidemment bien d'autres. Et justement tu vois, avant de rentrer un peu dans tout ça, qu'est-ce qui t'a donné toi envie de t'intéresser au potentiel humain, d'aider les gens à être en meilleure santé ou même toi-même à être en meilleure santé, une meilleure version de toi-même. Quel a été l'élément déclencheur, un peu le déclic dans ta tête qui a initié ce chemin infini?
Oh, alors c'est cool grâce à ta question, de pouvoir revenir peut-être aux prémices. Je pense que j'étais relativement jeune, je vais te dire 18 ans, à peu près quelque chose comme ça, parce que à ce moment-là, j'ai commencé par peut-être une des premières mesures de santé importantes. Je me suis dit, je dors 9 heures par nuit à partir de maintenant, à 18 ans déjà, ce qui est entre guillemets un peu sage pour l'heure, parce que c'est pas vraiment le nombre d'heures de sommeil qu'on a à cet âge-là en général. Et j'ai vu les effets positifs qu'il y avait sur ma santé, sur ma capacité à continuer de faire tout ce que je faisais déjà. Et j'ai vu aussi ce qui se passait lorsque j'avais pas ces 9 heures de sommeil. Et là, du coup... je me suis dit c'est dingue l'impact que ça peut avoir, et je me suis orienté vers plein de choses, notamment les études en sport à la base, et je dirais que un peu dans tout mon parcours, j'ai compris que pour que les choses se passent le mieux possible, il fallait avant tout et surtout que moi-même je me sente bien. Certains diraient peut-être, je sais pas s'il y a des fans de yoga qui écoutent ton podcast, mais il faut être bien centré, bien aligné pour avoir une meilleure expérience de chaque journée. Et l'idée quelque part, c'est plutôt que de subir quelque chose, d'avoir une part un peu proactive comme ça dans certaines mesures basiques qui n'ont pas besoin d'être mesurées. Bien sûr, je me lève pas tous les matins en disant 8h57 de sommeil, je m'en fous complètement, mais je sais qu'il y a certains paramètres qui sont importants pour moi et je suis capable de lier ça avec une écoute attentive de mon corps maintenant et pouvoir partager ça. J'ai l'impression que c'est un très simple outil, le plus puissant qu'on peut avoir, parce que on est notre propre capitaine quelque part, et on est les seuls à être 100% du temps avec nous-mêmes. Donc si on augmente ne serait-ce qu'une petite partie de notre puissance, de notre connaissance vis-à-vis de ce qu'on est capable de faire, eh ben ça a un impact plus puissant que tout le reste, tout simplement, parce qu'on peut avoir le meilleur des coachs finalement, même si on le voit tous les jours une heure, ça reste que une heure sur 24. Donc même en voyant son coach tous les jours, ça reste totalement dérisoire par rapport à des connaissances qu'on peut acquérir pour soi-même. Et donc je suis vraiment entré dans cette démarche qui est celle de, avant tout comprendre sur moi ce qui se passait, puis ensuite pouvoir transmettre, mais plutôt le partager à un niveau qui correspond à celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute, qui se dira, bon, ben voilà, ça me parle, je suis prêt à le faire maintenant, ça me parle pas, je suis pas prêt à le faire maintenant. Et on arrive dans un échange qui est constructif et je pense vraiment très intéressant et très puissant parce que ça concerne l'évolution directe de la personne. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené, je dirais, à ce type de chemin, et parce que de base, je veux pas imposer. Je suis parfaitement OK avec le fait de pouvoir peut-être inspirer, peut-être le terme est fort, mais en vivant soi-même sa meilleure vie, je pense qu'il y a beaucoup plus de puissance dans le message qu'on apporte que dans n'importe quel discours autoritaire où on dise « faites tout ça, ne faites pas ça », ce que je trouve personnellement un peu agressif et ridicule.
Je suis tout à fait en phase avec ça. Moi, quand j'ai commencé justement ce chemin du mieux vivre, j'ai commencé à avoir plus d'énergie, à être plus heureux. Et aujourd'hui, quand je vois toute l'évolution que j'ai eue personnellement, ce que je pensais en fait être mon max, tu vois, l'expression maximale de mon énergie, de ma personnalité, etc., en fait, était peut-être la moitié de ce que j'étais capable de donner, et pour moi et pour les autres. Donc, ce qui est super intéressant avec ça, c'est que toi, en ayant plus d'énergie, en étant mieux aligné, justement, mieux équilibré, t'es à la fois plus heureux pour toi-même, plus productif dans les tâches que t'accomplis, donc dans ce que t'apportes au monde, et t'as aussi plus de sérénité et d'amour à donner aux autres. Donc, tu vois, c'est quelque chose d'hyper vertueux qui, en plus, entraîne les autres avec toi, tu vois, et donc, c'est quelque chose, c'est presque une boucle d'auto-réaction qui s'auto-alimente. Et je trouve ça merveilleux, et aussi merveilleux d'ailleurs de le partager. Et d'ailleurs, le podcast, et on en parlait en introduction, un vecteur hyper puissant justement pour donner un terreau de réflexion aux gens, pour leur permettre d'évoluer sur leur propre chemin, puisque chaque chemin est individuel. On va en parler après, tu vois, mais le fait de prendre la maîtrise de sa santé, ça nécessite aussi de comprendre que tu dois en prendre la maîtrise toi-même, c'est-à-dire la responsabilité. Toi-même réfléchir à ce qui est bon pour toi, à tes protocoles, à ton terrain génétique aussi qui est individuel. Donc, d'ailleurs, ça me fait une parfaite ouverture pour ce sujet de reprendre un petit peu le contrôle de sa santé, de son énergie. Comment est-ce que tu vois toi ce chemin ? Déjà, comment est-ce que tu démarres dessus ? Il y a tellement de choses que tu peux faire. T'as cité le yoga. Tu peux t'intéresser à la nutrition, au sport. Il y a tellement de choses potentielles. Et en même temps, je pense que quand tu démarres sur ce chemin-là, t'as toujours peur, entre guillemets, de pas bien faire. T'as envie que quelqu'un te dise, tu dois faire cela parce que t'as pas confiance en tes propres jugements. Donc, est-ce qu'il y a une façon de protocoler le truc ou de monitorer le truc qui te permettrait d'avoir un feedback un petit peu plus objectif, qui te donnerait confiance dans les tests et dans les expériences que tu fais sur toi-même pour améliorer ton expérience de vie? Beaucoup de questions en une, hein.
Magnifique, c'est extrêmement vaste, et en fait, la réponse initiale que je vais te donner est très simple, mais je pense qu'elle a des ramifications extrêmement complexes. Donc, la première partie de la réponse, tu l'as mentionné, c'est prendre en responsabilité et pas en culpabilité, ce qui est très différent, sa propre santé. C'est-à-dire que dès le moment que tu comprends que tu as ce pouvoir, c'est-à-dire que ta santé n'appartient pas à n'importe quel autre système que toi-même, tu peux te dire, l'avis des médecins est extrêmement intéressant, et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un critère d'un expert dans un domaine, mais l'avis de quelqu'un d'autre est aussi intéressant, l'avis de quelqu'un d'autre est aussi intéressant. À un moment, tu te dis, mais finalement, ce que moi, j'en pense, c'est quoi? Ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'expérimente. Quand je dis à un nutritionniste, moi, j'aime pas les pâtes complètes, je suis ballonné. Puis le nutritionniste ou la nutritionniste insiste sur le fait qu'il faut absolument manger ça, et puis que nous, on se sent mal à chaque fois. Alors, on se dit, mais peut-être qu'il y a d'autres alternatives. On s'écoute, on trouve quelque chose d'autre. Mais finalement, on revient même voir cette même nutritionniste ou ce même nutritionniste. On lui dit, j'ai trouvé une alternative. Est-ce que ça rentre dans ce que je suis capable, selon toi, de consommer? Et on trouve un terrain d'entente. Donc, même en écoutant les experts, on se rend compte que s'écouter, c'est aussi donner plus de puissance aux experts qui nous suivent, parce qu'on leur donne des alternatives qui vont correspondre ou non au spectre d'analyse qu'ils ont. Donc, quand je disais que ça a beaucoup de ramifications, c'est que si on n'accepte pas que notre manière d'expérimenter la vie, ça fait un peu gros, mais notre expérience de vie, nos sensations, nos ressentis, nos émotions, si on n'accepte pas que cette partie a une valeur, et une valeur extrêmement puissante, eh ben, on passe à côté de notre propre vie, parce qu'on fait que écouter les conseils des autres, au détriment même de ce qu'on ressent nous-mêmes. Et donc, voilà, quand je te disais à la base, c'est extrêmement simple, il y a des ramifications énormes, c'est que si on pense qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut régler nos problèmes, ben, on finira par ne jamais trouver quelque chose, parce que le problème n'est pas ailleurs. Le problème est partagé par les autres, mais toujours pour quelque chose qui finalement nous correspond. J'ai pas la phrase en anglais de Bruce Lee, mais qui est aussi un grand philosophe et qui, bon, c'est peut-être pas la partie que la plupart des gens connaissent de Bruce Lee parce qu'il voit plus le gars super sec qui met des bastos à tout le monde, ce qui est normal, hein, ça fait partie de son
mythe.
Profil. Mais je crois que la phrase, c'est quelque chose du style, il faut prendre ce qui nous intéresse, laisser le reste, puis continuer d'avancer, ou quelque chose du style. Et il y a des choses qui nous correspondent, d'autres non. Ça peut faire partie pour certains de ce qu'on pourrait appeler les biais cognitifs ou les biais de confirmation, ce genre de choses. On se dit, ah, on prend que ce qu'on aime et finalement, on n'accepte pas les avis divergents, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de dire que dans les différents avis qu'on peut écouter, on peut parfaitement écouter quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, totalement, mais tirer des choses qui nous parlent parce que, justement, ça nous parle, ça a quelque chose à voir avec nous. Et ce qui n'a rien à voir avec nous va peut-être nous être moins utile. Et quelque part, cette espèce de tyrannie, de l'objectivité à 100%, où on va dire il faut absolument être objectif, il faut absolument uniquement avoir des données, il faut absolument avoir tout ça. Je pense que ça nous sort un petit peu, et là c'est peut-être un domaine un peu plus, on va dire, rigoureusement scientifique, entre guillemets, cartésien, rationnel, ce genre de choses. On va avoir tendance à vouloir tout le temps raisonner, tout le temps vouloir analyser. Puis pour ceux qui aiment bien peut-être la petite allusion, je trouve qu'un discours raisonneur est bien souvent déraisonné, si je me permets un petit jeu de mots. C'est que si on cherche à trouver ce qui nous parle, qu'on avance, comme tu l'as dit, finalement, on va pouvoir prendre plein de branches différentes, mais pour les connecter à un tronc qui est notre propre tronc. C'est-à-dire on est notre propre arbre de connaissances. C'est très intéressant d'aller trouver des branches différentes, voire même des feuilles, des petits points. Mais c'est pas possible de prendre des branches différentes dans tous les sens en étant nous-mêmes pas bien enraciné, pour finir cette analogie avec un arbre. On parle d'un tronc de connaissances, on parle de différentes branches pour différentes matières. L'idée, c'est toujours de comprendre où on en est. Donc, on va apprendre de la nutrition, on va apprendre, peut-être on va faire du développement personnel, peut-être on va faire du yoga, peut-être on va faire des choses qui n'ont rien à voir, peut-être on va complètement changer de branche, peut-être on va faire du sport, peut-être on va se dire que c'est la lumière. Donc, est-ce qu'on a de l'exposition à la lumière du soleil, peut-être qu'on va se dire ah, je dors pas assez, peut-être qu'on va se dire c'est notre conjointe qui nous casse les pieds, peut-être qu'on va se dire que c'est notre famille qui n'a rien à voir avec nous, puis on est un petit mouton noir dans notre famille, puis en fait il fallait simplement s'émanciper de tout ça, parce que la phrase un peu forte ici, c'est est-ce qu'on est obligé d'aimer notre famille, et puis la réponse est non. C'est assez fort, peut-être, ce que je viens de dire. Mais donc toutes ces choses-là font partie d'une amélioration potentielle, mais elle est valable que, si je reviens à la base, si on accepte la responsabilité de notre propre santé, de notre propre bien-être. Il n'y a pas de sauveur, en fait. On est notre propre sauveur, c'est un peu une grande phrase comme ça qu'on balance, mais qui est très simple, en fait, et très puissante. Donc, je pense qu'à partir de là, les personnes qui nous écoutent, ou peut-être toi, peut-être même moi, à travers l'échange qu'on a, je pense qu'on peut à chaque fois se dire, tiens, c'est marrant, il y a ça, ça me parle, et puis je vais l'appliquer. Et puis ensuite, on rentre dans la pratique. Donc, c'est bien que ça nous parle, mais il faut toujours avoir une connexion entre ce qu'on comprend et la mise en pratique, parce que j'aime bien dire que on est quelque part le cumul de tous nos actes. Donc c'est pas une fois une bonne action, entre guillemets, comme on dit, qui justifie 10 actions de merde. Je m'excuse d'être un petit peu incisif là-dedans, mais pour donner le terme qui me vient vraiment avec on est un emmerdeur, on est vraiment quelqu'un de manipulateur, de ce qu'on veut, etc. Mais on fait de temps en temps une bonne action, et puis les gens retiennent des fois juste la bonne action, des fois ça va dans l'autre sens. Moi j'aime bien penser qu'on est le cumul de tous nos actes et que ça reflète du coup qui on est. Et donc, un, on prend la responsabilité, deux, on n'oublie pas d'agir, et ça nous permet de tester, de se planter, et de retester, et donc de finalement trouver quelque chose qui nous correspond. Je pense que ce serait mon approche.
Et tu parles du coup du fait de s'écouter, de s'auto-analyser. Donc c'est assez facile. Par exemple, tu prenais l'exemple des pâtes. Moi, par exemple, je peux constater que quand je mange un dessert sucré, un gâteau, quelque chose comme ça, j'ai beaucoup de mal à le digérer. J'ai des gaz, etc. Je me sens ballonné, je me sens pas bien. Et ça me le fait à chaque fois. Donc tu vois, au bout d'un moment, c'est facile de s'en apercevoir. Il y a peut-être d'autres choses qui sont plus difficiles à mesurer. Et dans ce contexte-là, est-ce que tu penses que son écoute personnelle, est-ce que c'est parce que c'est mon niveau d'écoute qui est pas assez puissant, ou est-ce que tu penses pas que parfois c'est important de monitorer certaines choses, pouvoir les corréler aussi sur la durée? Tu parlais du fait de faire une action isolée VS quelque chose tous les jours. Ben c'est peut-être parfois intéressant d'avoir des corrélations de données, des routines, d'habitudes que tu fais, de voir comment elles vont impacter, je sais pas, ta variabilité de la fréquence cardiaque ou d'autres marqueurs de récupération, ta fréquence cardiaque au repos, ta température. Il peut y avoir plein de choses potentielles que tu peux monitorer. Qu'est-ce que tu penses justement de ce feedback technologique qui aujourd'hui est hyper accessible en plus aux particuliers, donc que tout le monde pourrait avoir chez lui? Comment l'utiliser et quels seraient les marqueurs vraiment déterminants à regarder qui permettraient, entre guillemets, de monitorer l'amélioration de sa santé? Outre le ressenti de « j'ai plus d'énergie, je me sens mieux dans ma vie », ce qui est déjà pas mal.
Tu le sais, Produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 euros par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. Il s'appelle la routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testées, affinées et intégrées dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel, sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main et soutenir ce projet en investissant 20 euros dès aujourd'hui, le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien.
Super. Alors écoute, ta question est aussi très très vaste. Je te donne peut-être d'abord une palette de critères dans un premier temps avant même de les commenter, juste pour donner une idée des indicateurs qu'on peut avoir. Donc on peut autant avoir des indicateurs qui peuvent sembler très simples, par exemple se peser tous les jours sans se dire c'est bien, c'est pas bien. Si tout à coup quelqu'un prend 3% de son poids en 3 semaines, le pourcentage du poids en évolution chaque semaine, ça paraît tout simple, mais donc quelqu'un qui fait 100 kilos, s'il prend 1 kilo en une semaine, calcul très simple, hein, il a pris 1% de son poids. Mais quelqu'un de 50 kilos qui prend 1 kilo a pris 2% de son poids. Donc on voit déjà qu'il faut une sorte de normalisation des critères, et ça c'est très simple, juste par rapport au moins au poids de la personne, ou une sorte de référence à son propre gabarit, à son propre niveau, peu importe le domaine. Mais disons, pour ce qui est santé, il faut quelque part des indicateurs qui nous permettent d'avoir un rapport cohérent avec la personne avec qui on parle. Donc un obèse morbide grade 3 ou un bodybuilder professionnel, si les deux font 110 kilos, ils n'auront pas la même composition corporelle. Il y en a un qui va gonfler des muscles de partout, l'autre qui va plutôt gonfler au niveau du tissu adipeux. Et pardon. Dans l'idée, ces critères-là, je pense, peuvent être intéressants, mais donc le poids n'est pas suffisant. Donc pour regarder la composition corporelle, on peut regarder aussi des choses comme la température que tu as évoquée, on peut regarder la fréquence cardiaque, on peut regarder l'évolution de la fréquence cardiaque avant, après un repas, l'évolution de la température avant, après un repas, on peut regarder énormément de choses, donc on peut vite se perdre. Et c'est là que je me rends compte que si on ajoute en plus de ça les bilans sanguins, qui sont des fois complètement hors contexte, hein, on a toute cette liste de trucs qui correspond à souvent 9 critères sur 10 qu'on connaît même pas, mais ils sont quand même là, et souvent juste pour des raisons finalement de remboursement de la sécu, et plus que pour vraiment des analyses directement cohérentes, prises en contexte par un professionnel qui nous connaît, c'est ça que je veux dire. Et en fait, ce qui devient compliqué, c'est de créer une forme de cohérence avec tout ça et trouver une forme de valeur aussi. Par exemple, si tu prends 50 bijoux technologiques qui coûtent 1000 euros chacun et que tu es très content de pouvoir faire ton analyse super technique avec ta balance bioimpédance à 7000 balles, ensuite tu mets telle personne sur tel truc qui doit garder tous les jours, tu lui rajoutes un anneau qui mesure plein de choses sur le doigt, donc fréquence cardiaque, genre de choses, et puis au final tu te retrouves avec toutes ces données et puis tu as l'impression d'être un beau coach alors qu'en fait tu n'as même pas demandé à la personne comment tu te sens, quel est ton objectif, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton objectif, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir perdre du poids. Et puis en fait, tu peux te rendre compte de mille raisons. La plus simple, ça peut être simplement, bon, je me suis fait larguer, puis je suis dégoûté parce que le mec ou la mise en question est parti avec quelqu'un qui était un peu mieux, en meilleure forme physique que moi. Et puis en fait, c'est juste une mesure de revanche et c'était pas du tout l'objectif si on travaillait un peu. Je dis n'importe quoi, tu vois, mais tous ces objectifs peuvent aussi nous éloigner de l'essentiel. Mais moi, j'adore tous ces critères. Mais ce que je fais, c'est que j'ai tous ces critères en tête. C'est-à-dire, je te refais un listing, hein. Ça peut être le poids, ça peut être la température avant et après repas, ça peut être la fréquence cardiaque avant et après repas, ça peut être la quantité de calories, macronutriments et micronutriments y compris, qui peuvent interagir là-dessus. Ça peut être l'évolution de ces macros et macronutriments par semaine. Par exemple, dans une optique de restauration d'un niveau normal du métabolisme, quelqu'un qui a fait du yo-yo toute sa vie, donc qui a perdu du poids, repris du poids, et qui, pour une fois, décide de manger juste au moins assez avec des nutriments qualitatifs sur une certaine période, le métabolisme peut se restaurer. On n'est pas obligé de manger comme des moineaux jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Et là, l'idée, c'est que tous ces critères-là peuvent être intéressants, mais s'ils correspondent à l'objectif de la personne. Donc, j'ai des sortes de cases, et je me dis, bon, bah, le poids, intéressant, oui, super. Ou, non, pas du tout, source de stress pour la personne, c'est absolument pas le moment de l'utiliser. Je peux me dire, la fréquence cardiaque, intéressant, oui, bien sûr. Pareil, source de stress pour la personne, oui, parce que tendance à l'anxiété, blablabla. Quand elle voit sa fréquence cardiaque, bah, elle devient encore plus anxieuse, et puis c'est surtout pas une bonne idée. Donc, nos critères, oui, génial, mais toujours en fonction du contexte de la personne. Donc, il y en a plein, et je pense qu'il y en a qui sont très pertinents, peu invasifs, et qui sont très intéressants à proposer. Et j'utilise beaucoup la fréquence cardiaque et la température parce que mettre un thermomètre sous l'aisselle et puis sous la langue, plutôt sous la langue et sous l'aisselle, dans cet ordre-là, on a moins un arrière-goût de dessous de bras, c'est pas du tout un problème et ça permet d'avoir des interprétations vraiment très cool au niveau des hormones parce que la distribution de la température est différente si on est très stressé ou si on est bien métaboliquement, mais aussi jusqu'aux extrémités, donc aussi les oreilles, le bout du nez, les genoux, les mains, les pieds qui restent chauds et qui restent en bonne santé. C'est quelque chose qui est très caractéristique maintenant en hiver, on peut très facilement avoir froid aux pieds et puis aux mains, et c'est pas juste une question de température, ça peut être une question métabolique aussi. Donc voilà, tous ces critères, j'adore, mais toujours en contexte et être sûr qu'on n'est pas gouverné par les critères et qu'on peut utiliser les critères, c'est une boîte à outils, c'est comme des exercices pour un coach ou des aliments pour un nutritionniste, ce sont des outils, c'est pas des choses à imposer.
Tu peux nous livrer un petit peu un protocole que tu utilises toi sur la température, justement tu parlais de prendre la température buccale et sous les aisselles, comment est-ce que tu interprètes, à quel moment tu le fais et comment tu interprètes ces résultats?
Super. Alors, je vais faire une version brève ici. Si jamais quelqu'un a envie d'aller un petit peu plus loin, il y a un podcast gratuit que j'ai fait qui dure 13 minutes sur 100% la température et comment prendre la température. Mais je fais très volontiers un résumé.
Je mettrai le lien dans l'article lié pour que les auditeurs puissent y accéder.
Super. Bah écoute, merci beaucoup. Comme ça, je sais que si jamais j'ai pas besoin d'aller autant dans les détails, que je te donne clairement un petit protocole carrément ici. Super. Alors, l'idée c'est de voir ce qu'un repas a comme impact sur le corps. Et ce que les gens comprennent pas, c'est qu'en fait, l'alimentation a bien sûr un impact sur nos hormones parce que nos hormones représentent l'état énergétique dans lequel on est actuellement. Quand on parle d'énergie, en tout cas en biologie, on va parler d'ATP, donc adénosine triphosphate, on va parler de nos réserves d'ATP cellulaires. Donc on a tellement de cellules que faut en mentionner quelques-unes différentes, là, juste pour être sûr que tout le monde suive, mais autant les cellules de différentes muqueuses, autant les cellules de la peau que les cellules musculaires, ce sont des cellules et elles ont toute une dépendance énergétique à ce dollar énergétique qui est l'ATP. Donc c'est comme si on pouvait payer en dollars partout, et nos cellules, on leur dit voilà, il y a ce qu'il faut. Pour vérifier l'état énergétique du corps, on a quelques petites choses qui vont se réguler. Et la température, c'est une espèce de facteur global comme ça qui permet d'attester que on a assez d'énergie, pas juste pour les organes vitaux, le cœur, les poumons, la rate, le foie, le pancréas, etc., mais qu'on a aussi assez d'énergie pour la totalité du corps, pour avoir même chaud aux mains, pour continuer de faire pousser nos cheveux, pour continuer de globalement, je vais même parler, je pense qu'on a une majorité de personnes justement majeures, mais pour avoir une bonne libido, une bonne activité sexuelle aussi, c'est pas du tout quelque chose d'essentiel. Notre cœur doit battre avant qu'on soit capable de faire l'amour 3 fois par jour. C'est pas le, s'il y a des priorités selon l'état énergétique concrètement. Et si tout va bien, si au niveau de nos cellules, on a suffisamment d'énergie, ça se traduit par une température qui reste proche de ce qu'on appelle la température optimale physiologique, 37 degrés, mais pas juste sous la bouche, qui est plutôt une mesure, on va dire, centrale. Aussi avoir la température plus périphérique, donc plus vers l'extérieur, pour faire simple, enfin vers les côtés du corps, la température axillaire, donc sous l'épaule, sous le bras, c'est quelque chose qui représente un petit peu plus la température qui pourrait être négligée. Par exemple, si on est stressé, donc soit on a un examen demain, soit on n'a rien bouffé parce qu'on pense que la seule solution à l'alimentation, c'est de rien manger. Donc, je caricature un petit peu parce que je pense qu'il y a un moment pour tout, même pour le jeûne, c'est pas forcément quelque chose pour lequel je suis partisan, on pourra en parler si tu veux, avec grand plaisir, je serai pas dogmatique ou quoi que ce soit, mais par exemple, lorsqu'on jeûne, donc on ne mange rien, donc l'inverse de regarder notre température après un repas, on pourrait avoir un delta, donc une différence entre la bouche et l'aisselle qui est colossale. Donc si on a froid aux mains et froid aux pieds quand on fait un jeûne, en fait c'est totalement normal. Notre corps redistribue l'énergie dans les priorités. Et quand on ne mange rien, le corps dit « Oh, le bout des doigts, le bout des orteils, concrètement rien à foutre. » Pour être un petit peu informel, on va envoyer ça au cœur, au poumon, à la rate, etc. Au foie, bien sûr, au cerveau en priorité. Et le cerveau à lui tout seul, donc 2% du poids corporel, c'est 20% de l'activité métabolique du corps. Le cerveau utilise quoi ? À peu près 5 grammes de glucose par heure. Donc c'est soit on le donne, soit le corps va le chercher ailleurs. Et donc si le corps va le chercher ailleurs, c'est nos propres tissus qu'on va cataboliser pour faire de la néoglucogénèse et faire du sucre. Donc une manière de voir que tout va bien métaboliquement parlant, c'est juste de dire tiens, ma température sous la langue est très proche de ma température sous l'aisselle et les deux sont très proches de 37 degrés. C'est un reflet très simple de l'activité métabolique et de l'équilibre hormonal qui représente au final l'état énergétique du corps. Je sais pas si je suis allé trop loin, je m'excuse si c'est le cas.
Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et en plus, j'aime bien parce que t'as pris deux exemples, celui du cœur par rapport à la libido, où la priorité du corps, c'est d'abord que le cœur batte avant de baiser, en gros. et des extrémités. Et en fait, ça permet de bien comprendre un sujet qu'on a souvent abordé sur ce podcast, qui est que pour pouvoir tendre vers la performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle, il faut d'abord que les besoins physiologiques du corps soient assurés. Il te permettra d'aller vers la performance ultime, vers la meilleure expression de toi-même, que si à la base, Louis a déjà assuré sa propre survie biologique. Et du coup, je trouve ça très intéressant de le voir par deux nouveaux exemples qui viennent de nouveau étayer cette théorie globale qui me semble fondatrice et très intéressante. Du coup, toi, t'es pas un grand fan du jeûne. C'est marrant parce que t'es un peu à contre-courant de ce que beaucoup prônent, notamment le jeûne intermittent qui est extrêmement à la mode en ce moment. Ça me fait rire parce que tu me disais avant que t'avais enregistré un podcast avec Rudy. Rudy qui fait partie aussi des personnes qui combattent ce jeûne intermittent. Alors, dis-moi un petit peu ce que t'en penses et pourquoi est-ce que tu trouves que finalement c'est pas une si bonne idée?
Avec plaisir. Moi, je pense que t'as compris un peu avec le type de réponse que j'ai. Plutôt que de dire juste je suis pour, je suis contre, et puis quelque part démerdez-vous et puis faites-moi confiance, j'aime bien toujours mettre les informations en contexte pour que les personnes puissent prendre ce qui les intéresse. Quand je dis que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à recommander, c'est parce que je garde en tête, j'ai envie de dire, la notion suivante au niveau de la santé, qui est souvent mal interprétée. Ça fait que peu de temps, je pense, que je la comprends relativement bien. Et je me réjouis d'étayer beaucoup plus ça, mais l'état énergétique cellulaire du corps, c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça, et puis ça peut nous faire peut-être paraître intelligent quelques instants, mais on s'en fiche complètement de ça. C'est juste savoir si nos cellules, qui doivent fonctionner avec de l'énergie, c'est un postulat de base, une cellule sans énergie, elle meurt. C'est pas très compliqué. Hein. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est pas controversé du tout. Pour qu'une cellule survive et puisse exercer son plein potentiel au niveau cellulaire, on parle d'une capacité à exercer quelque part son activité avec une phase plus ou moins stressante. Donc la version simple, c'est « Bonjour, j'ai faim, je mange, c'est bon, je peux faire mon taf. Bonjour, j'ai de nouveau faim, ah, on me donne de nouveau à manger, parfait, je peux continuer de faire mon taf. » Je caricature à mort, hein, mais exprès, pour justement qu'on comprenne bien que cette disponibilité en ATP, donc le dollar énergétique cellulaire, quand il y en a, super, on fait notre taf. Quand il n'y en a pas, c'est « Oh putain, les gars, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de bouffe et tout, on fait comment? » Bah, on fait quand même, parce que sinon on meurt, donc on fait quoi? Bon, bah, vous savez quoi, ce morceau de muscle, là, vous allez le cataboliser, vous allez le couper en morceaux, on va faire du sucre pour le cerveau, parce que le cerveau, il doit continuer de vivre. Si à un moment, le cerveau, il arrête de travailler, on est tous morts. Donc, prenez les morceaux de muscle, prenez vos bouts de mollets, vos bouts de biceps, vos bouts de ce que vous voulez, prenez aussi votre glande thymus, catabolisez tout ça, donc on fait du catabolisme protéique, donc on va dégrader notre masse maigre, notre propre tissu, qui est du tissu très précieux, pour faire de la néoglucogénèse, qui est la fabrication de glucose, ce monosaccharide, ce sucre simple qui permet de nourrir le cerveau sans dommage au passage, parce que le cerveau ne peut pas accepter d'oxyder des lipides, ou alors des lipides très particuliers, à chaîne relativement courte, parce qu'il y a une limite au niveau de ce qu'on appelle un ratio NAD par rapport à FAD, qui sont des cofacteurs d'oxydation. En gros, c'est une espèce de lutte lorsqu'on a un truc aussi puissant que le cerveau, qui est une des caractéristiques qui fait qu'on n'est pas un ruminant ou un autre animal. Donc, un truc particulier chez l'humain, c'est qu'on a un gros cerveau. Il y a une théorie derrière qui suggère qu'il faut avoir une grande disponibilité en substrat pour pouvoir utiliser un cerveau aussi puissant. Ce serait un petit peu comme dire, ouais, tu veux acheter une Lamborghini, ok, t'as intérêt à avoir un bon budget pour l'essence, parce que mon gars, ça va y aller. C'est un peu la même idée. Et si on veut conduire une Lamborghini puis la nourrir comme une Twingo, ben on se retrouve assez vite face au mur. On a quelques critères qu'on peut faire entre deux. On va vendre notre aileron arrière, vendre peut-être un pneu ou une jante, je dis n'importe quoi, mais la voiture va se dégrader. C'est exactement ce qui se passe avec le corps humain si pendant un long moment, on lui donne pas d'énergie. J'arrive enfin à la réponse par rapport au jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, la définition est une fenêtre d'alimentation. Typiquement, on va avoir le 8-24 où on va manger que pendant 8 heures et pendant 16 heures, on ne va pas manger. Et il y a une espèce de postulat pendant la période pendant laquelle on ne mange pas qui va aller du côté de la régénération cellulaire ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que si on reprend ça par rapport aux réserves énergétiques du corps, donc je reprends cet exemple de mettre de l'essence dans une voiture. Le réservoir à essence a une certaine taille. Dans le corps humain, on parle de glycogène. Le glycogène, ce sont les réserves de sucre. En tout cas, par rapport au glucose. On a des énormes réserves de graisse, hein, ça, c'est pas le problème. Donc, les réserves de carburants haute qualité qui vont nourrir le cerveau, qui fait qu'on est spéciaux dans l'espèce qu'on est, Homo sapiens sapiens, c'est le glucose. Donc c'est le critère déterminant de est-ce qu'on peut continuer d'utiliser cette énergie de haute qualité. On veut mettre du kérosène dans un avion, on veut pas mettre du pétrole qui n'a pas du tout été, enfin qui vient de sortir de la pompe, quoi. On peut pas mettre de l'essence non traitée, non raffinée dans un avion ou dans une voiture. Donc il faut un traitement de l'alimentation pour se dire, ok les gars, vous êtes un humain, félicitations, votre cerveau coûte cher, il faut assumer maintenant. Et c'est l'inverse qui se passe avec le jeûne intermittent. Et qu'est-ce qui se passe, qui est très positif à court terme, c'est le relais hormonal. Donc notre corps dit, les gars, on n'a pas d'essence, on peut pas rouler. Puis il y a un gars qui arrive qui fait, pas de soucis, moi je vais vendre ta maison, je vais vendre l'intérieur de ta voiture, je vais même vendre ta copine, j'ai n'importe quoi, mais je fais exprès, je vais vendre tous les trucs qui comptent pour toi, mais à court terme, vas-y, accélère, tu vas te sentir super bien. On appelle ça le cortisol et les catécholamines, l'adrénaline et ce genre de choses, et on se sent au taquet, sous stress, comme si un lion était en train de nous attaquer. C'est toujours un exemple un peu bidon, mais on est sous relais hormonal. C'est ce qui fait qu'on peut trembler aussi, avoir des effets chaud-froid, qu'on peut avoir moins faim, ce qui est considéré comme positif, alors qu'en fait, ça veut juste dire qu'on est sous stress. Et pendant cette période-là, on se dit, on est hyper productif, hyper focus, et puis on est un peu l'employé parfait parce qu'on fait son boulot sans s'arrêter, on n'a pas faim de toute manière, et dès qu'on arrive chez nous, on se dit, ah, c'est parfait parce que c'est seulement quand j'arrive chez moi que je suis capable de manger. Traduction, le stress diminue enfin un peu, on restaure nos signaux de faim, et on peut de nouveau commencer à manger normalement, et puis ça nous correspond bien, parce que comme ça, la journée, on n'est pas embêté, on n'est pas ballonné, on n'a pas besoin de se poser des questions si on peut améliorer notre alimentation ou non. On rentre chez nous, on mange n'importe quoi en une fois, on appelle ça la warrior diet, et tout le monde est content, quoi. Je caricature un petit peu, mais c'est pour ça que je suis pas fan du jeûne intermittent. C'est-à-dire que les principes qui permettent soi-disant d'avoir de l'autophagie, de la régénération cellulaire, d'améliorer la vie sur le long terme, ce genre de choses, sont basés sur des études qui sont sur des organismes qui ne peuvent vivre qu'en laboratoire. Le C. elegans qui est utilisé, c'est une espèce de petit asticot comme ça pour les études sur l'extension de vie avec la restriction calorique ou le jeûne. C'est un asticot qui littéralement se met en mode hibernation lorsqu'il mange moins. Donc il est totalement léthargique et par contre il vit plus longtemps. Donc on a un asticot qui n'est même pas capable de survivre en dehors de sa petite boîte, qui vit plus longtemps, et on prend ça comme un critère d'optimisation de la santé. Je sais pas si on se fout de notre gueule et à quel point à ce moment-là, mais franchement, c'est assez violent parce que ce type d'étude, finalement, n'est pas pertinent. Ces études ne seront pas pertinentes pour l'humain parce que nous, on a toujours quelque chose à faire, que ce soit les impôts à payer, le boulot, assumer les factures, développer notre potentiel si on a dépassé ses besoins de base, parce qu'il y a des besoins de base d'ordre sociétal, il y a des besoins de base d'ordre physiologique, mais une fois qu'on a dépassé tout ça, on peut encore énormément se développer. Est-ce que cet état d'hibernation, de léthargie, alors que même cet asticot, il se ferait bouffer par un oiseau au passage s'il était dans cet état-là, donc il vivrait même pas plus longtemps dans la vraie vie, même pour cette espèce-là, a un impact vraiment qu'on peut interpréter comme positif sur une potentielle extension de notre vie. Alors que oui, on voit de l'autophagie, plus de cellules qui se recyclent, ce genre de choses, mais c'est parce que l'asticot qui est tellement sous stress qu'il a qu'un seul choix, c'est d'hiberner pour vivre pendant cette période-là en espérant avoir une meilleure période plus tard et qui est capable de faire ça, voit des données physiologiques comme ça, mesurées sur ces organismes qui ont une durée de vie très courte, donc qu'on peut étudier sur la durée de vie. On ne peut pas étudier un humain sur la durée de vie, ça voudrait dire que c'est seulement dans 100 ans ou dans 150 ans qu'on a des données à exploiter. Donc on fait des extrapolations juste totalement ridicules sur ce genre de choses. Et donc on étudie surtout les animaux et on se demande même pas si c'est un, pertinent pour l'humain, deux, pertinent pour l'humain dans son contexte. Et moi je pars du principe que si on veut être vif d'esprit, développer son plein potentiel, il faut au moins dire à notre cerveau, mec, tout va bien, tu peux continuer de faire ce que tu veux et ensuite regarder le reste. Mais quelque part j'aime bien dire, vous êtes humain, bravo, félicitations, minimum 150 grammes de glucides par jour. Sinon vous êtes en train de bouffer votre propre corps. Ce sont des réalités physiologiques, hein. Là il n'y a pas de controverse derrière. Si on est juste vivant, on vit notre journée, notre corps va consommer 5 grammes de glucose par jour à peu près. Et ce qui est assez marrant, c'est que comme c'est tellement, tellement demandeur d'énergie, on ne peut pas se permettre de donner des substrats qui ne sont pas qualitatifs. Parce que sinon, si on arrive avec des substrats extrêmement instables ou ce genre de choses, on peut avoir des dégâts. Et le débit, la puissance, pour ceux qui sont un peu intéressés, donc la quantité d'ATP nécessaire à chaque instant pour le cerveau est tellement grande, entre guillemets, le cerveau est tellement incroyable qu'on peut pas mettre du carburant en merde, quoi. Et donc, si on a des graisses de type, par exemple, hautement insaturées, ce genre de choses, par exemple, je sais pas, prenons de l'huile de soja ou soya, selon où vous êtes, et puis, on va avoir des restes de ce catabolisme des acides gras polyinsaturés qui vont se retrouver au niveau du cerveau, qu'on va peut-être appeler finalement un diabète de type 3 ou quelque chose, mais on parle d'Alzheimer ou ce genre de choses. La dégradation du cerveau vient de, quelque part, un manque d'entretien de la qualité de l'essence qu'on va donner au cerveau pour qu'il puisse continuer de générer autant d'énergie. Donc c'est génial, on est humain, on a un potentiel incroyable, mais il faut assumer. Et pour assumer, je pense que le jeûne intermittent, c'est juste au maximum une période à court terme qui permet de se sentir bien. Et je comprends très bien la stratégie, parce qu'être ballonné au boulot, c'est un avantage pour personne. Donc rien manger pendant la journée, ça peut diminuer tout ce qui est problème de digestion. Mais quand on arrive le soir, qu'on se dit qu'on mange énormément d'un seul coup et qu'on est rassuré parce que soi-disant on a fait de l'autophagie, de la régénération cellulaire quantique, de je sais pas quoi pendant 16 heures sur les 24, je caricature exprès, c'est un petit peu loufoque, quoi. Donc pas grandement fan. J'ai dit que j'allais pas être dogmatique, c'est pas vrai, je suis un petit peu tranché quand même, mais je pense vraiment qu'on peut pas négliger le fait qu'on a un cerveau et que le cerveau demande de l'énergie. Et ça, c'est pas controversé. Ensuite, ce qu'on fait comme gymnastique quelque part autour pour vendre un truc ou une méthode ou un concept, c'est peut-être quelque chose que, dans lequel on peut se retrouver enfermé. On a publié un livre sur quelque chose, on a une méthode qui marche très bien sur Internet, on a une communauté autour de la diète carnivore ou la diète low carb ou la communauté de jeûne intermittent ou la diète cétogène, où on a derrière quelqu'un qui nous paye l'équivalent d'un SMIC pour que on puisse juste dire que ces suppléments sont bien. Est-ce qu'on va mordre la main de celui qui nous nourrit? Je sais pas, c'est encore autre chose. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu me défaire de certaines choses. Je voulais rester intellectuellement honnête et transparent. Donc j'ai de la peine avec les méthodes.
J'adore. Il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais rebondir. Déjà, je vais te remercier pour la qualité des métaphores que tu proposes, qui permettent de vulgariser et de facilement comprendre les concepts. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans la genèse du jeûne intermittent, c'était un peu de dire que lorsqu'on était des chasseurs-cueilleurs, on mangeait pas autant que maintenant. Et en fait, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une chance de pouvoir avoir autant de nourriture à disposition et que ça nous permet d'être dans un fonctionnement optimal tout le temps, ce qui n'était pas le cas des chasseurs-cueilleurs à l'époque, qui du coup, pendant toute une partie de la journée, étaient en mode survie, justement. Du coup, on pourrait faire une petite parenthèse sur le sujet du stress hormétique, puisque tu l'as dit, le jeûne intermittent, c'est un stress, il y en a plein d'autres. Est-ce que malgré tout, le stress a un potentiel intérêt pour permettre au corps, en s'adaptant, de devenir plus puissant, plus résilient?
Super. Je vais commencer par dire que je remets clairement en question ces principes hormétiques, ça vient pas de moi. Je vais donner quelques détails ici. J'ai deux personne que je recommande d'aller lire, pour les anglophones du moins, parce que dans le milieu francophone, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup détaillé, à part peut-être par quelques personnes qui sont peut-être plus difficiles à joindre, on va dire ça comme ça, parce que ce sont des personnes qui se sont déjà pas mal retirées des réseaux sociaux et puis de peut-être certains aspects toxiques qu'on peut avoir dans ces soi-disant échanges qui n'ont rien d'échange véritablement humain, comme on peut avoir maintenant avec des ressentis, des questions, des oppositions, mais aussi un respect et le temps de développer un point et de rebondir sur ce point, ce qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup trop vite. Donc, pour revenir à ta question qui était par rapport au stress hormétique, c'est lié à la loi, ou là, j'ai plutôt envie de dire de la théorie ou même de l'hypothèse de l'hormèse, qui est arrivée à un moment assez particulier au niveau de la pollution. C'est-à-dire que il y a certaines lois, entre guillemets, qui arrivent pour justifier quelque chose qui est une pratique un petit peu douteuse de personnes qui ont un petit peu plus de puissance dans un domaine. Je donne une analogie. On a beaucoup de pognon, on est président de supermarché, on brasse un pognon pas possible, et puis on nous fait chier avec telle ou telle loi sur tel ou tel ingrédient qui est soi-disant pas très bon pour la santé, parce que nous, on gagne littéralement 2 millions par an juste en mettant cet ingrédient plutôt qu'un autre. Et donc, c'est ces emmerdeurs qui nous empêchent de vendre notre produit et de faire notre marge à la fin du mois ou à la fin de l'année, si on peut passer une ou deux lois qui disent c'est bon, c'est tout répertorié dans un truc et tout le monde est content, on a l'impression de manger que des trucs sains pour notre santé, même si c'est déjà emballé, déjà prêt en supermarché et ça tient 4 mois et demi sur un étalage de supermarché sans bouger. C'est en fait, on est en train de créer une espèce de loi pour justifier une pratique qui est une pratique de quelqu'un qui a beaucoup de puissance et qui veut pas qu'on l'emmerde, pour caricaturer un petit peu. Donc je parle pas ici de, chaque loi est passée pour justifier quelque chose de complètement aberrant de quelqu'un qui a de l'argent. Le problème, c'est que ça arrive parfois. Et lorsque ça arrive, il faut être sûr que finalement ça n'a pas d'impact sur le côté scientifique, santé, physiologique. Et on va dire qu'il y a des curiosités, au moins, qui sont arrivées au niveau de la loi, soi-disant de l'hormèse, notamment au niveau de tout ce qui est test au niveau de la bombe atomique et de tout ce qui est réaction nucléaire et tout ce qui est finalement un petit peu de dégâts à tel et tel endroit. Et puis dire à un moment que toutes les personnes qui ont quelques petits dégâts au niveau de telle et telle entreprise de grande création d'énergie, donc sans énergie on n'est rien, si demain on supprime gaz, pétrole, nucléaire, demain, c'est le chaos, c'est la guerre civile, il n'y a plus personne. Hein. Juste pour, je ne sais pas si certaines personnes font les liens ou ce genre de choses, mais si on utilise quelques personnes qui expriment ça très bien, sans dire que je suis d'accord du tout avec la personne, hein, Jean-Marc Jancovici ou des personnes qui parlent de collapsologie ou ce genre de choses, c'est peut-être pas un sujet que tu as envie d'aborder, c'est un peu moins joyeux. Hein. Clairement, on a des limites physiques au niveau de ce qu'on peut utiliser comme énergie, pas juste au niveau physiologique humain, mais au niveau physiologique terrestre. Donc certains l'appelleront Gaïa, d'autres l'appelleront juste la Terre, d'autres regarderont juste ça d'un côté cartésien et diront, voilà, on attend d'eau, on attend de pétrole, on attend de bois, on attend de machin, on attend de soleil, on attend de vent, on peut en faire de l'énergie ou non, et ensuite on regarde comment on s'en sort à travers tout ça. Mais l'idée c'est que si à un moment on dit que voilà, on a fait ça pour amener de l'énergie, par exemple le nucléaire, et puis il y a eu tel ou tel problème ici, et puis finalement toutes les maladies liées à l'hypothyroïdie de telle zone qui a été problématique avec cette explosion qu'on a eu à tel moment et qui va durer pendant des milliers d'années, ouais, c'est pas trop grave, on va appeler ça l'hormèse. Admettons qu'il y ait quelque chose comme ça, ce serait quand même assez problématique. Je dis pas que c'est forcément ça, mais il y a certaines hypothèses qui vont de ce côté-là. Et l'hormèse, c'est un peu comme dire, vous êtes stressé, c'est bien, vous allez vous adapter. Donc à partir de maintenant, on va mettre un pervers narcissique en couple avec chaque personne sur Terre et le monde sera meilleur. Parce qu'on aura tous un stress psychologique. Et donc on va devenir plus fort par rapport à ce stress. Est-ce que c'est ce qu'il en ressort ? Bien sûr, vivre avec quelqu'un de toxique, ça peut nous apprendre à savoir ce qu'on ne veut plus. Et donc au final, même être trahi, même être manipulé, etc., ça peut sembler utile. C'est très fort ce que je viens de dire, mais des personnes qui sont mal intentionnés avec nous, ça peut nous permettre d'être plus résilients face à une prochaine personne qui aurait cette même attitude. Ok, donc même psychologiquement, ça semble tenir la route d'une certaine manière. Mais une fois qu'on a compris tout ça, est-ce que c'est nécessaire pour entretenir la bonne santé? Est-ce qu'on est obligé d'être sous stress pour s'adapter de la meilleure manière? Et là, une autre théorie qui vient en place, c'est globalement, on a deux possibilités d'amener de l'énergie. Je caricature, hein, c'est jamais deux et c'est jamais aussi simple, mais on a une manière qui est efficiente et une manière qui est à peu de choses près dégueulasse. Donc une qui dit, voilà, celle qui est efficiente, vous venez de manger un fruit. Dans le fruit, il y a du sucre facilement disponible, il y a des polyphénols et des bioflavonoïdes qui font que le sucre qui va arriver dans votre système digestif va essentiellement être consommé par votre corps et pas par vos bactéries. Donc il n'y aura pas d'excès de LPS, ce qu'on appelle les lipopolysaccharides ou les endotoxines. Il n'y a pas d'inconfort intestinaux qui vont arriver avec ça. On va garder le système digestif relativement propre. Grossièrement, le fruit nous dit, voilà du sucre, c'est pour toi, mais pas pour les bactéries. On est bien, notre cerveau est content, on continue notre vie. Et de l'autre côté, il y a le « il faut absolument rien manger, c'est tout dans ta tête, tu verras, tu te sentiras mieux ». Alors effectivement, on n'a pas de prolifération bactérienne parce qu'on mange rien, donc nos bactéries du système digestif ne sont pas nourries plus que ça. Mais pendant ce temps-là, comment est-ce qu'on fabrique l'énergie ? Eh ben, on se dit « bon, il n'y a pas de carburant, on fait quoi ? Bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser facilement et qui est très très sensible au cortisol ?» Bon, ben, le moins sensible au cortisol, heureusement pour nous, c'est le cœur. C'est pour ça qu'on trouve de la testostérone dans le cœur. Donc si on mange le cœur d'un animal, ça peut être une source de testostérone, pour la petite histoire. J'ai des amis qui mangent du cœur d'animal, juste pour vous dire, pour rigoler. Mais ça fait partie d'un organisme, du coup, un organe résistant au stress. Pourquoi ? Parce que si on n'a rien à manger, le cœur, il doit tenir le coup. Point. Il n'y a pas de discussion. Donc le cœur va tenir le coup si on ne mange rien. Mais la glande thymus, beaucoup moins. Et les lymphocytes T font partie du système immunitaire. Hein. Donc si on commence à se dire, on mange rien, on va renforcer notre système immunitaire, alors qu'on vient de auto-bouffer notre propre glande thymus, qui fait partie de ce qui nous aide à lutter contre tout pathogène, c'est compliqué, c'est une autre interprétation. On va dire ça, oui, mais on a diminué tel truc de marqueur inflammatoire, de truc de machin, pour faire une gymnastique un peu dans tous les sens, et c'est vrai que le système, la réaction inflammatoire est abaissée lorsque on mange moins. Mais pas parce que, finalement, c'est une meilleure chose. Est-ce qu'au final, on amène toujours bien de l'énergie, ou est-ce que on amène de l'énergie en bouffant notre propre corps, puis on prend tel ou tel marqueur arbitraire pour justifier un discours qui peut-être initialement n'a pas beaucoup de sens. Et moi j'aime bien l'idée que plus on renforce ce pattern d'apport d'énergie de bonne qualité, plus on peut aller vers la différenciation, la complexité, l'ouverture d'esprit, un haut niveau de conscience, un haut niveau d'empathie, parce que on a déjà couvert nos propres besoins. Quand nous-mêmes on est stressé, on est plus irritable, on est plus à fleur de peau, on peut que faire son truc, on fonce et puis on ouvre beaucoup moins notre perspective au monde parce que de base c'est « les gars, j'ai rien à bouffer, laissez-moi faire mon truc, je sais qu'à la fin de ma journée je gagne mon argent, faites-moi pas chier, je fais rien d'autre, tac, et on va surtout pas s'ouvrir à autre chose ». Je caricature malheureusement à peine, notre état énergétique, donc on parle d'ATP ici. Il n'y a pas de cassure complète entre le psycho et le physiologique. On a bien mangé, on se sent bien, on n'est pas ballonné, on n'est pas irritable, on peut aussi être beaucoup plus agréable. Quand on reçoit quelqu'un chez soi, la personne n'a rien mangé depuis un moment, on lui dit, tu sais quoi, prends un petit truc à bouffer et ensuite on discute. Bah, si on lance la discussion tout de suite, bah, on peut rentrer en conflit sans aucune bonne raison, simplement parce que le gars est fatigué, il n'a pas assez bouffé. On prend deux, trois dates ici, on croque dans une pomme, pour ceux qui n'ont pas peur de boire dans un jus de fruits pressé, vous pouvez boire un jus de fruits pressé, puis on arrive avec une discussion qui est tout à coup, ah, ça fait du bien. Bon, on voulait parler de quoi? Ouais, non, ça, je m'en fous, finalement. J'ai eu un petit problème, mais il n'y a aucun souci. Parlons plutôt de ça. Comment ça va de ton côté? Ah ouais, t'as pu développer ça, génial et tout. D'ailleurs, je pense, j'ai cette proposition pour tel projet qui pourrait... Voilà. Bon, dans l'idée, l'hormèse, à mon avis, c'est quelque chose qui permet de justifier le fait que un humain actuellement sur Terre, donc en société forcément, parce que sinon on n'en entend pas parler, bravo pour ceux qui ont réussi à sortir du système, mais c'est pas forcément évident, on est stressé de base. Ce qu'on fait dans les études pour augmenter le niveau de stress, c'est voici une tâche de choses à faire, et puis on va juste vous donner moins de temps pour y arriver. C'est un des critères qui permet de stresser les gens. Donc on se dit, il faut être plus productif. Au nom de quoi? La loi de la productivité? Non, d'abord c'est notre propre équilibre. Donc si on fait 10 choses, puis le but c'est d'en faire 11, on se met un stress, par définition, et c'est même un critère utilisé en étude pour favoriser le stress. Est-ce que ça améliore notre vie? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'assurer que les 10 trucs qu'on fait sont vraiment essentiels? Et nous apporte quelque chose, et peut-être apporte quelque chose au reste du monde. Peut-être même qu'en faire que 5 et être encore meilleur sur ces 5 critères-là va nous permettre finalement de mieux se développer. Le fait d'avoir plus de stress, au sens très 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 large, donc le stress c'est une incapacité quelque part à mobiliser suffisamment de ressources positives et adéquates pour faire face à une situation à un moment donné, donc c'est une manière un peu large comme ça de dire que concrètement on manque de fuel au moment où on a besoin d'appuyer sur l'accélérateur, c'est pour caricaturer un petit peu, ben, si on appuie sur l'accélérateur, il y a toujours de l'énergie qui est utilisée. Maintenant, c'est d'où vient cette énergie? On l'a apportée avec des repas qualitatifs, autant en macro qu'en micronutriments, et notre corps a pu en faire de l'énergie, ou on a des problèmes au niveau cellulaire pour faire de l'énergie, et on préfère avoir recours au stress pour se sentir énergisé. Traduction, on a du cortisol et de l'adrénaline qui nous donnent cette illusion d'énergie, mais qui fait vraiment de la merde au niveau physiologique parce qu'on est en train de bouffer notre propre corps pour, de base, juste pouvoir nourrir notre cerveau et continuer de fonctionner. Et on a froid aux mains, on a froid aux pieds, on a une mauvaise libido, ou, je vais me permettre de dire, de très mauvaises performances au niveau sexuel, parce que, finalement, pour reprendre un instant sur les hommes et puis l'érection, c'est lié à la production de dioxyde de carbone, qui est une fabrication de l'énergie cellulaire et qui représente, quelque part, la qualité de fabrication d'énergie de notre corps. Donc, quelqu'un qui a une bonne libido a, avant tout, un bon état énergétique. Qu'est-ce qu'on voit chez les personnes qui ont des problèmes pour avoir des érections, qu'on appelle la dysfonction érectile, parce qu'on aime bien donner des termes un petit peu complexes pour parler juste d'un gars qui est dans le mou, on a généralement quelque chose qui est lié avec des plus grandes chances d'avoir du diabète, d'avoir des maladies cardiaques, ce genre de choses. Donc, un homme, mesdames, messieurs, peu importe vos pratiques, etc., si vous avez de la facilité à avoir une érection, tant mieux, parce que ça veut dire que vous êtes a priori en bonne santé. Et puis, probablement qu'il y a aussi les autres critères qui sont un peu plus importants. Votre partenaire masculin, féminin, j'ai absolument aucun jugement à porter de ce côté-là, vous excite, et tant mieux. À l'inverse, avoir juste des envies, mais pas tenir du tout, ça peut être lié à un excès de stress. Ça veut dire une petite pulsion qui vient comme ça, qui est lié à une phase de stress, mais on n'est pas capable d'assumer un acte, par exemple, après, parce que au niveau cellulaire, il se passe quelque chose qui dit, ben, c'est éventuellement juste une phase un peu primaire de reproduction qui est possible, mais c'est pas une phase de, je sais pas, j'ai envie de dire même sexe en conscience ou quelque chose comme ça, où voilà, l'homme et la femme, les hommes, les femmes, peu importe, vivent vraiment une belle expérience ensemble, et consciente, et puis sans, voilà, cette espèce de, on doit juste faire ce qu'il faut à un moment donné, puis ensuite passer à autre chose, être un petit peu comme ça, refermé. Donc, tout ça, c'est des infos que je te donne autour de l'hormèse, parce que je pense qu'on va avoir des articles comme ceux de Jay Feldman, J-A-Y, espace F-E-L-D-M-A-N, ou Ray Pete, qui est un auteur controversé, hein, mais c'est une personne qui a un doctorat en physiologie de la reproduction, qui a 84 ans, sauf erreur, et qui parle avec plus d'enthousiasme que certaines personnes de 20 ans, donc il a encore un grand enfant dans sa tête et un éternel curieux, et puis pourtant il connaît des choses absolument extraordinaires, ou en tout cas il les partage avec énormément de générosité et puis sans demander de contrepartie. Je pense que ces personnes ont une vision de la loi de l'hormèse, entre guillemets, qui permet de au moins remettre en question cette base de « il faut stresser pour être en bonne santé ». Je pense qu'il faut vivre des expériences pour pouvoir avancer dans ce monde qui a pas mal de contraintes et où on est stressé par défaut. Mais je pense qu'une fois qu'on passe au-delà de ça, le but, c'est plutôt de rencontrer des personnes agréables que des pervers narcissiques toute sa vie, quoi. Pour caricaturer un petit peu. Parce que ça va plus nous faire évoluer. Deux personnes qui se tirent vers le haut plutôt que toujours un petit stress qui nous tire vers le bas. Mais oui, il faut s'adapter parce que l'autophagie, loi de l'hormèse, machin, tout ça. Je pense qu'une loi doit avoir le nom d'une loi si c'est vraiment une loi. Genre, on peut trouver des trucs au niveau physique, probablement, qui sont voilà extrêmement solides. Mais la loi de l'hormèse, à mon avis, il y a au moins un problème de sémantique. Et je pense pas qu'on devrait appeler ça une loi. Je voudrais peut-être qu'on devrait appeler ça la théorie ou l'hypothèse. Ou voilà, on a ça et puis on réagit à ça, puis finalement on avance. Puis on peut appliquer ça au sport. On se dit, un petit stress, ça nous permet de devenir plus fort. Mais est-ce que c'est le stress du sport qui nous a vraiment permis d'évoluer? Ou est-ce que c'est un stimulus mécanique, une adaptation au niveau d'un pattern moteur qui fait qu'on arrive à pousser plus fort au développé couché, au squat, au machin, etc. Plus un milieu hormonal, donc la traduction d'une quantité d'ATP physiologique suffisamment importante pour que notre muscle dise « Hey, génial les gars, vous savez quoi, on va développer de la masse musculaire parce qu'on a tout ce qu'il faut. » Et puis globalement, on aura plus de testostérone ou plus d'hormones androgènes, ce genre de choses qui vont avoir un impact sur la régulation de l'énergie, qui fait qu'on va continuer de s'adapter, qui fait qu'on va continuer de devenir plus performant, qui fait que on va probablement développer du muscle et puis entretenir certaines choses. La testostérone a aussi un lien avec, bien sûr, la sexualité, la libido. On pourrait faire un parallèle avec le côté féminin ou autre, mais l'équilibre hormonal est lié avec l'équilibre énergétique. Et la loi de l'hormèse, quelque part, dit tout ça, on s'en fout. Je caricature un petit peu, hein. On me dit autant stresser parce que le stress, loi de l'hormèse égale bien, et donc stress égale adaptation égale peu importe le stress que tu as, tant que c'est à petite dose, eh ben, on devient un petit peu meilleur. À vous fumer, c'est pas grave, fumez un petit peu, Jeanne Calment va vivre plus longtemps. Ah, vous avez telle personne qui vous saoule, c'est pas grave, vous serez plus résilient face à la vie. Vous avez tous les jours 3 heures d'activité physique, ben, demain vous pourrez tenir 3h30 d'activité physique. Mais si on normalise tout ça à l'état énergétique d'une personne à un moment donné, à nouveau je parle d'ATP au niveau cellulaire, est-ce que la personne a ce qu'il faut pour appuyer sur l'accélérateur ou c'est juste un petit kéké qui aime bien appuyer sur l'accélérateur puis il a oublié que c'était papa maman qui payait pour le plein d'essence derrière, quoi. C'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on amène l'énergie pour en profiter au maximum, pour avoir l'expérience de plus haut niveau et là on parle de différenciation cellulaire plutôt que de prolifération cellulaire, donc le potentiel de différenciation dépend de l'état énergétique. Je me suis un peu perdu, enfin moi j'étais pas perdu, mais j'espère que j'ai pas perdu trop le monde, mais dans l'idée de la loi de l'hormèse, à mon avis, néglige un petit peu cet aspect, au moins ma compréhension de la physiologie actuelle, c'est que chaque chose, on le fait en fonction de nos réserves énergétiques à chaque instant. On va pas commencer à accélérer quand il y a le voyant lumineux qui nous dit c'est le moment de faire le plein d'essence. On a plutôt une conduite tranquille, on va essayer d'anticiper pour pas freiner inutilement, réaccélérer après. Par contre, quand il y a le plein d'essence, là c'est le moment, on vient de manger, on a chaud, on bouge, on interagit avec le monde, prenons un gamin. Un gamin qui mange, il vient de bouffer, c'est une pile électrique qui bouge dans tous les sens. C'est génial, ou c'est un cauchemar pour les parents. Ça dépend de l'attention qu'on a à lui donner. Moi, je trouve ça génial. Une personne âgée à qui on donne un petit peu trop d'énergie, qui n'est pas capable d'en faire quelque chose, en fait, on lui donne trop de carburant, mais pas trop d'énergie, parce que la personne va faire une sieste après. La personne va faire une indigestion. La personne ne va pas se sentir bien. La personne va avoir des gaz. La personne va avoir être constipée. Et en fait, le but, c'est de faire un maximum d'énergie, ATP, cellulaire, avec ce qu'on mange, pour finalement avoir une très belle expérience de vie. Je pense que la loi de l'hormèse, pour justifier un stress, à mon avis non justifiable, c'est plus quelque chose qui permet d'arranger un état sociétal actuel. On est stressé, point. Okay, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on trouve 2-3 prétextes pour quand même être en bonne santé et tout. Et génial, parce qu'il faut vivre. Mais je pense qu'on peut vivre encore mieux si on évite d'en faire une loi, quoi. Voilà.
Ouais, écoute, très très intéressant, une belle réflexion. Si je la synthétise un petit peu, j'ai l'impression qu'en fait ce que tu remets en cause, c'est pas vraiment la loi de l'hormèse en tant que telle, c'est son principe général en tant que loi. Et donc tu prenais par exemple, donc déjà t'as parlé pas mal du jeûne, donc ça on a bien compris les limites potentielles que pouvait avoir le jeûne et le stress pas forcément positif qu'il pouvait avoir sur le corps. Moi après quand je parlais de stress hormétique, j'imaginais plutôt au contraire justement des stress qui mènent à des adaptations positives. Donc t'as cité le sport après et donc t'as quand même expliqué que si le terrain hormonal etc. le permettait, que tu lui donnais le bon carburant au bon moment, le corps serait capable de s'adapter. Et donc ça, dans ma définition en tout cas, j'ai l'impression que c'est une forme de stress hormétique puisque le corps devient meilleur suite à un stress. Et on pourrait en citer d'autres parce que tu vois, tu prenais l'exemple du pervers narcissique. Ça, pour moi, au contraire, c'est l'opposé d'un stress hormétique parce qu'il va être continu, diffus et négatif, tu vois. Et pour moi, le stress hormétique, il a plutôt la définition d'être court, intense et mené à une adaptation positive. Donc du coup, la cigarette, elle va peut-être être courte, intense, mais elle mène pas à une adaptation positive. Donc pour moi, c'est pas un stress hormétique. Et pareil, le pervers narcissique, bah du coup, il est long, diffus. Il est peut-être intense, mais long et diffus. Et donc du coup, c'est plutôt du stress chronique. Après, peut-être que d'un point de vue physiologique, tous ces stress-là sont les mêmes, mais d'un point de vue mental et intellectuel, je pense qu'ils sont différents, qu'il faut les différencier. Et j'ai deux exemples, en tout cas personnels, pour étayer ce point-là. Le premier, c'est que j'ai fait de l'alpinisme. Là, j'en ai déjà parlé dans ce podcast-là, début septembre. Et à 4000 mètres, à un moment, je marchais sur une corniche avec le vide des deux côtés. Et je savais que si je tombais, je mourrais. Vraiment, tu vois, t'as cette conscience accrue et profonde de la mort. Et donc, c'est un vrai stress, tu vois. T'es sous concentration, mais à fond dans le flow, quoi. Mais vraiment à fond dans le flow. Et après, quand t'arrives de l'autre côté, t'as tout qui se relâche et tu pleures parce que t'as toute cette pression qui retombe. Et en plus, c'est super beau. Mais tu vois, ce type de stress un peu intense, court et auquel tu survis, bah, j'ai l'impression que derrière, il te permet de relativiser justement tous les petits stress de la société. Là, tu parlais de la productivité, de cette vision de traverser ses journées le plus rapidement possible, sans manger, pour être le plus efficace possible. Et puis quand tu rentres chez toi, enfin, tu te reposes. Bah, justement, j'ai l'impression que ces référentiels de stress, de ce qui est un vrai stress, bah, permettent entre guillemets de relativiser tout ce qui en sont pas, tu vois. Donc, il y a ce premier exemple. Et le deuxième, c'est le froid. Je sais pas quel est ton rapport avec le froid. Moi, je prends des douches froides depuis peut-être 2 ans, et je trouve que ça a été un vrai game changer dans ma vie à plusieurs égards. Déjà, d'un point de vue immunité, j'ai l'impression de jamais être malade. D'un point de vue résistance au froid, tu vois, je chauffe pas énormément ma maison, je suis en t-shirt, il y a pas de problème, alors qu'à côté de ça, j'ai des gens qui viennent chez moi, ils mettent des pulls, ce qui montre bien que mon corps quand même s'est adapté. Et troisièmement, d'un point de vue mental, t'apprends aussi à trouver du confort dans l'inconfort. Donc quelque part, tu ressens ce stress là et grâce à ta respiration, t'arrives à te sentir bien, à te sentir confortable malgré le stress. Et du coup, ça te permet de prendre conscience que t'as aussi un contrôle sur ta physiologie, t'as un contrôle sur ce stress-là, et tu peux, ces outils-là que tu connais, tu peux les utiliser au cours de ta journée ou n'importe quoi. Quand il se passe une situation, par exemple, dans ton travail qui t'énerve, tu vois, et tu sens tout de suite que tu boues, tu trembles presque d'énervement. Et là, tu dis, j'ai juste à allonger mon expiration pour me calmer. Et donc, ça te permet de prendre conscience de ces outils-là. Après, là où je te rejoins, c'est que il faut pas en faire une loi et se dire tous les jours, faut absolument que je fasse ma douche froide, sinon mon corps va être en mauvaise santé, etc. Il y a des jours où parfois je sens que je suis un petit peu plus fatigué, que j'ai besoin d'un peu plus de récupération, où je sens tout simplement que c'est pas le moment. Et dans ce cas-là, je prends une douche chaude. Donc, il faut pas que ça devienne effectivement dogmatique. Mais je pense malgré tout que ces petites doses de stress t'aident à t'adapter, que ce soit physiquement ou intellectuellement, pour devenir plus résilient et quelque part justement réduire et non pas augmenter la dose de stress que tu as le reste du temps au cours de tes journées.
C'est hyper intéressant. Je vais commencer par te dire que j'ai des points que tu as évoqués sur lesquels je suis pas du tout sûr actuellement de mon positionnement. Donc, par exemple, tu as parlé de la respiration avec notre capacité à chaque instant de se dire « Ok, juste, et c'est même sans connaître rien du tout à la physiologie, il parle à tout le monde. C'est instantanément, je dis « Ok, le gars a... » au minimum extériorisé une sorte de source de stress, et là après cette expiration se sent déjà un peu mieux, tout le monde le comprend instantanément, intuitivement. Et en fait, la respiration, c'est un contrôle qu'on a qui est extraordinaire sur notre corps. Bon, ben, je fais du yoga, et dans le yoga il y a les asanas, donc le stretching, étirement, mobilité selon comment les gens les voient, préparateur physique ou autre. Il y a le côté méditation ou pause selon comment les gens les appellent, et puis il y a le côté respiration, bien sûr, donc la partie qu'on appelle pranayama. Et puis les respirations peuvent nous donner un impact incroyable, et je vais en caricaturer deux. Je pense que tu es quand même bien conscient de ce que tu peux faire au niveau de la respiration avec des méthodes qui existent. Les méthodes d'exposition au froid les plus connues sont pas forcément celles avec lesquelles je suis le plus d'accord, mais dans l'idée, on peut très souvent caricaturer hyperventilation, hypoventilation. Et puis tu peux avoir un côté où tu te dis, ben, respirer super doucement, par exemple mettre le menton en arrière et puis faire ce qu'on appelle une respiration glottique ou la respiration Ujjayi, ça va donner une espèce de un son un peu bizarre comme ça, tout en inspirant par le nez, ça va faire comme si on respirait par une paille, et globalement on va hypoventiler. Hypoventiler, c'est finalement une hypercapnie, comme on l'appelle, c'est une augmentation de la rétention de dioxyde de carbone dans le corps, qui se trouve au final être aussi un produit de la respiration cellulaire. C'est là qu'on va peut-être faire un parallèle dans un instant. De l'autre côté, on peut hyperventiler aussi, puis faire des respirations très fortes, avoir vraiment certaines choses qu'on va retrouver dans le yoga, qui peut s'appeler la respiration du feu, ou ce genre de choses, avec vraiment quelque chose comme ça de très rapide, et qui peut donner énormément de chaleur et de puissance à un instant T. Et certainement que d'un côté, on aura quelque chose qui est un peu plus lié à la rétention du dioxyde de carbone et de l'autre côté, un peu plus lié à l'oxyde nitrique, donc le NO. Et on va dire que les deux sont des vasodilatateurs, ce qui est très intéressant parce qu'ils ont un rôle similaire, mais il y en a un des deux qui est plus lié au stress, un des deux qui est plus lié à un état énergétique élevé et à ce qu'on appelle un entretien d'un flux d'énergie, parce que le CO2, c'est aussi ce qui permet, pour ceux qui connaissent la physiologie, via l'effet Bohr, B-O-H-R, le décalage vers la droite de la courbe de dissociation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Donc c'est globalement, on relâche de l'oxygène plus facilement là où il y a du dioxyde de carbone. C'est une manière de dire que sans CO2, on est mort. Donc on va pas amener de l'oxygène dans nos cellules sans CO2. Donc tu parlais d'altitude et de différentes choses qu'on a et des choses qui se passent au niveau des différents effets qu'on a, l'effet Aldein et un autre effet qu'il faudrait considérer ici. Globalement, à partir d'une certaine altitude, ça devient compliqué, voire même impossible de produire une grande quantité de lactate et tu vas garder plus de CO2, ce qui est très très intéressant. Et il y a des idées qui sont pas totalement farfelues, même si souvent les gens sont considérés comme des charlatans. Vivre en altitude, c'est probablement un truc intéressant pour éviter d'attraper le cancer, par exemple. Alors que vivre en ville, et ça c'est les assurances qui connaissent bien, parce que quand on parle d'argent derrière et d'argent qu'on peut économiser via justement les assurances, en tout cas en Suisse ça fonctionne comme ça, ben on fait payer plus cher les gens qui habitent en ville que les gens qui habitent en montagne. Par exemple, je paye à peu près deux fois moins cher mon assurance maladie en Suisse, ce qui est absolument pas négligeable. Si un jour vous renseignez pour vivre en Suisse, passer de quelque chose comme environ 400 balles à 200 balles par mois, c'est quand même le jour et la nuit, quoi. Donc juste pour vous dire, ça se manifeste même chez des gens qui sont les plus rigoureux cartésiens et qui prennent des indicateurs extrêmement précis. Donc là, on était sur quelque part l'hormèse avec cette idée de stress, mais tout à coup un stress qui devient, j'ai envie de dire, adéquat et qui permet une adaptation. Moi, j'appellerais ça plutôt un stimulus, en fait, plutôt qu'un stress. Et c'est peut-être une question de sémantique. Et je pense qu'on est d'accord sur la plupart des choses. C'est-à-dire que je sens deux, trois choses, et tu me corriges instantanément si je dis des conneries, hein, mais je sens que tu es totalement pour qu'on puisse chacun développer notre propre potentiel et qu'on puisse justement aller plus loin, explorer ce dont on est capable. Et puis pour ça, on a besoin de s'adapter, d'évoluer, de continuer, puis donc de peut-être... pas de problème si on est freiné un moment, mais au final pour avancer. Donc globalement, dans une optique de, on se différencie, on se complexifie, on évolue, on devient un meilleur humain, au sens meilleure expérience consciente à chaque instant, enfin ce que tu veux, il y a plein de définitions possibles, mais je pense qu'on est d'accord sur cette idée-là, et qu'ensuite, peut-être qu'on a des petites notions sémantiques ou deux, trois trucs sur lesquels on ne s'entend pas trop, qui font que, voilà, a priori, on a un discours qui semble différent, alors qu'en fait, fondamentalement, il ne l'est pas. Ou peut-être qu'on est totalement opposé sur certains trucs, ce qui ne pose aucun problème personnellement. Je vois qu'on discute de ça de toute façon avec un grand niveau de respect, donc il n'y a aucun souci. Mais je pense que du côté du stress, par exemple, via exposition au froid, il y a deux, trois trucs à explorer, notamment les heat shock proteins, qui sont des protéines qui sont aussi liées avec un excès d'oxydation des graisses qui peut se faire au détriment du glucose. Traduction en simple, on peut utiliser du sucre, on peut utiliser du gras. Au niveau cellulaire, hein, manger du sucre et du gras en même temps, ça pose pas de problème. Mais au niveau cellulaire ensuite, les cellules qui ne sont plus capables d'oxyder le glucose sont des cellules qui ont perdu quelque part un équilibre qui correspond à la physiologie de l'être humain, en tout cas au niveau du cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a des cellules au niveau du cerveau qui perdent leur capacité à bien oxyder le glucose, on est dans la merde, vraiment. Genre on va vers un déclin au niveau cérébral, c'est certain. Parce que le débit d'énergie nécessaire ici peut correspondre qu'à une oxydation du glucose ou des graisses qui s'oxydent de manière très similaire au glucose, c'est-à-dire à chaîne relativement courte, et puis elles doivent au moins être un minimum stable. On pourrait parler de diète cétogène aussi, hein, parce que les corps cétoniques peuvent être utilisés par le cerveau, peut-être certaines personnes pensent déjà à ça. Mais dans l'idée, je pense que il faut jamais oublier le avoir suffisamment de carburant à chaque instant pour pouvoir avoir la tâche en question. Et si à un moment, on a besoin de moteur secondaire, entre guillemets, tu parles de cet exemple, moi-même j'ai une espèce de frisson, parce que je visualisais assez bien, puis je t'imaginais à 4000 mètres comme ça dans cet état de stress intense où c'est je vis ou je meurs, point, et c'est pouf, le flow, comme on dit en psychologie du sport, extraordinaire, t'es là, il y a ce moment, il n'y a rien d'autre, et c'est incroyable, comme si tout à coup tu chutes et t'arrives à te rattraper ou quelque chose, c'est des moments où t'as l'impression que tout est ralenti, c'est extraordinaire, et j'adore ce type de moment, mais... finalement, ça a été extrêmement intense, ça a été une belle expérience, et relativiser le reste, génial. Mais est-ce que finalement, c'était un truc adapté à ce moment-là, stressant? Je pense, et là, on parle du même stress, parce que je pense pas que t'étais genre juste, oui, c'est un petit stimulus, et t'as pris ça à la légère, non, t'es à fond, et y a pas d'autre possibilité, donc clairement, c'est un truc, je pense, qu'on peut qualifier de stress, mais je pense que tout ce qui découle de ça a été extraordinaire. Et ça ne veut pas dire qu'avant et après, tu n'étais pas capable de manger, ou tu as fait ça après 48 heures, où tu étais en jeûne, je sais pas quoi, plus une exposition à une douche froide, tu vois, je sais pas. À 4000 mètres, de toute façon, il ne fait pas super chaud, quoi qu'il en soit. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une petite partie de sémantique, il y a une petite partie où, personnellement, je ne suis pas encore positionné au niveau physiologique, parce que pour faire le lien avec d'autres choses, l'oxyde nitrique, par exemple, c'est quelque chose qui a tendance à s'accumuler et à poser problème au niveau de certains complexes de la chaîne respiratoire. On parle de la cytochrome C oxydase, pour ceux qui veulent les détails, qui est le complexe 4. Donc, c'est une partie qui permet finalement une bonne capacité, notamment à oxyder le glucose. On pourrait parler des différents complexes pour la capacité à générer de l'énergie. Ça peut devenir un peu plus, voilà, peut-être plus indigeste, mais globalement, si on se dit que nos complexes de la chaîne respiratoire, donc à l'intérieur de nos cellules, globalement, toutes les pièces du moteur fonctionnent bien. Si les pièces ne sont pas encrassées, c'est mieux, parce qu'on tient sur la durée. Et l'oxyde nitrique, s'il peut se figer sur ce complexe-là, il peut nous empêcher de fabriquer de l'énergie de manière efficiente. Et donc, si on produit trop de NO, nitric oxide ou oxyde nitrique, donc on peut avoir un souci qui, à court terme, est réglé, un stress comme ça qui peut en produire beaucoup, mais qui, sur la durée, peut avoir un souci. Donc, quelque part, on dit, on s'en fout de l'espérance de vie si on risque de crever à cet instant. Donc, on fait toujours quelque chose pour notre survie à court terme, même si c'est au détriment de notre santé sur le long terme. Donc, ça va peut-être à l'opposé de ce qui est souvent évoqué dans, on va dire, les forums et ce genre de choses. Je ne traîne pas trop là-dessus, parce que je pense que ce n'est pas toujours le meilleur endroit pour avoir des informations pertinentes. Ça peut être très intéressant, mais voilà, en tout cas, pas passer des heures par jour là-dessus à débattre. Là, l'idée, c'est que si à court terme, on n'a pas assez d'énergie et que c'est une situation stressante, le corps a comme principe de base, il faut survivre même si c'est dégueulasse. Point. Parce que si on est mort, on s'en fiche de notre espérance de vie. Si, par contre, à chaque instant, on est capable de restaurer un certain niveau, on a des espèces de jauges comme ça. On a besoin d'énormément d'énergie à court terme. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est génial, les gars. On fait un sprint, on a la phosphocréatine aussi. Ça ne veut pas dire que la phosphocréatine est utilisée que pour les sprints. Hein. Le modèle précédent, à mon avis, des différentes filières énergétiques a été bien mis à jour par Sean, si jamais, de Upside Strength. Tu as fait une super vidéo là-dessus en français, donc qui explique.
Je la partagerai.
Le fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut considérer là-dessus, mais on a des trucs pour un truc intense sans pour autant se sentir mal après. Mais se dire que plus finalement on a quelque chose, comme tu l'as dit, de chronique et de pesant qui nous tire vers le bas, et soi-disant, bah, tant qu'on a tous ces freins-là, mais on développe quand même notre moteur, on arrive à avancer malgré, je sais pas, 5 animaux qui s'accrochent derrière nous, mais c'est pas grave, on a un taureau, puis on avance quand même. À un moment, le taureau, il avancerait beaucoup mieux s'il avait pas, je sais pas combien de trucs accrochés à lui, quoi. C'était un peu un exemple bidon, mais il y a la puissance du moteur, et il y a les freins, et on pourrait appeler ça des freins métaboliques quelque part, et je pense que autant le développement du moteur est important que le fait de se débarrasser de ce qui ne sert à rien est aussi important. Et je pense qu'il y a des sources de stress inutiles qui peuvent finalement dégager et juste améliorer notre niveau de vie, et il y a certains stress qui sont quelque part peut-être plutôt des rappels que bon, on n'est pas dans un monde de bisounours, faut pas déconner, faut être à jour sur ta compta, faut payer tes impôts, faut pas avoir de poursuites, c'est mieux si t'as pas de problème d'interaction parce que t'as juste été mal poli et impulsif avec un flic ou quelque chose comme ça. Donc il y a des trucs qui te rappellent bien que voilà, on est bien dans un monde où il y a du stress et point, il faut pas déconner, mais qui sont pas négatifs parce que ils te permettent de pas être juste totalement un bisounours dans ton monde à essayer de sortir de la société. Mais je dirais attention au terme stress et stimulus, parce que ça, c'est quelque chose qui est un stimulus, c'est quelque chose qui a un caractère stimulant et c'est pas connoté négativement comme le stress, qui est plus associé à quelque chose qui est l'incapacité à faire face aux demandes à un moment. Est-ce que cette incapacité devient problématique ou permet une adaptation? C'est un énorme débat et c'est magnifique, mais est-ce que finalement on parle de stimulus avec un pervers narcissique, de nouveau pour reprendre l'exemple qu'on a évoqué tous les deux? Je pense pas. Là, on dit clairement stress, mais sans jouer sur les mots, même si personnellement j'adore ça, je pense qu'être précis au moins au moment où on parle de stress, c'est important, parce que sinon on arrive avec des lois et des dogmes, et ça c'est moins cool, parce que c'est moins honnête sur ton intellectuel.
J'accepte ta requalification de stress hormétique en termes de stimulus. Je trouve en plus qu'effectivement, d'un point de vue sémantique, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus juste. Donc ça me plaît. Je suis en phase avec ça. Et tu parlais un petit peu des impôts, du FIC, etc. Ça, c'est un contrat social. À partir du moment où tu acceptes de vivre en société, tu acceptes ce qu'elle t'apporte, mais aussi ce qu'elle te demande. Et comme tout contrat, c'est toujours donnant-donnant, tu vois. Tu peux pas imaginer. Sinon, tu peux refuser ce contrat-là. Et dans ce cas-là, tu sors de la société et t'en assumes les conséquences. Donc, je pense qu'il faut pas oublier que c'est quand même un choix qu'on a. On a toujours l'impression qu'on nous enlève le choix d'être libre, alors qu'en réalité, non, on a choisi de vivre dans cette société. En plus, t'as le choix de la société dans l'absolu dans laquelle tu vis. Tu vois, toi, t'as choisi de vivre en Suisse, c'est peut-être Suisse à la base, d'ailleurs. Mais voilà, t'as quand même un petit peu ce libre arbitre là. Bon, après, ceci étant, c'est pas du tout le sujet du podcast, donc j'ai pas trop avancé là-dessus. Et en plus, il y a plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder. Tu m'avais donné une heure et demie, donc ça va être chaud. On aurait pu revenir sur la respiration, qui est un sujet hyper intéressant. En plus, j'ai vécu le week-end dernier une expérience avec un brief work complètement dingue. Mais bon, bref, on va d'abord juste faire quand même. Il y a une petite question que je voulais te poser avant quand même. Tu parles de ces boulets qu'on traite derrière nous, tu vois, et qui nous empêchent d'avancer. Et même si t'es un taureau, tu tires. Et pour autant, t'avancerais quand même beaucoup plus vite si tu tirais pas tous ces boulets. Quels sont ceux que t'as bien identifiés et que t'as réussi à éradiquer de ta vie et qui pourraient parler un petit peu à tout le monde? Je suppose qu'on a tous des boulets un peu personnels, mais il y a des choses, des patterns un petit peu généraux qu'on traîne tous derrière nous et qui justement amoindrissent notre expérience de vie, et c'est quand même dommage.
Génial. Je commence par ne pas répondre à ta question, juste pour te dire qu'on peut sans problème tirer un petit peu plus, parce que les éventuels trucs que j'avais après dans la journée peuvent être décalés de 15, 20, 30 minutes. Donc, on peut dire que ça permettra peut-être d'excuser la dernière réponse où je me suis un peu emballé, mais comme ça, on est moins stressé, justement, pour pas être pris par le temps pour une certaine quantité de tâches qu'on a accomplies.
Super.
Maintenant, après, c'est si tu veux. Hein. Je veux pas, du coup, prendre.
Ah, non, non, bah, écoute, c'est passionnant. tu vois que je suis passionné. Je vois que t'es passionné aussi. Donc, c'est avec grand plaisir, évidemment.
Génial. Le temps est souvent un problème pour les gens passionnés, d'ailleurs. Donc, déjà, merci pour la mise en place du podcast, parce que aussi, c'est la manière la plus simple d'interagir pour moi. Parce que, du coup, si j'organise pas tout ce que toi, tu as organisé en l'occurrence, ça me permet de juste me connecter, si possible à l'heure. C'était pas le cas aujourd'hui. Je m'excuse encore au passage. Et du coup, on fait direct le truc, mais c'est toi qui as organisé tout ça. Donc, tu me retires encore une tâche, mais tu ne retires pas la qualité de l'échange qu'on peut avoir. Donc, bon, parenthèse fermée, on continue, mais c'est super cool. J'adore ce type d'interaction. Les trucs qu'on peut virer, il y en aurait plus ou moins deux, en termes de catégorie que j'aurais en tête. Il y aurait ceux qui sont vraiment extérieurs à nous et ceux qui sont internes, mais peut-être intériorisés plutôt. Je vais exprimer ça plus simplement. On vit en colocation quelque part et on se dit c'est génial, on paye trois fois moins cher le loyer parce que justement colocation. Donc du coup un des coûts importants de base, la location de notre lieu de vie si on est locataire, ou en tout cas ce qui fait qu'on peut justement jouir de chauffage, d'un toit, etc. Contrat social ou non, une fois qu'on est dedans, et a priori on parle quasiment que de ça ici, même si de mon côté j'ai eu un côté un petit peu alternatif à un moment au point de vouloir justement sortir de cette société, parce que jusqu'au boutiste, comme on dit en bon français, si on revient dans cette idée de base, on a ça, on se dit, bon voilà, on paye trois fois moins cher, mais du coup on a peut-être deux colocataires. Ces deux colocataires, s'ils sont extrêmement chiants et pompeux ou pompants niveau énergie, un des trucs qu'on pourrait faire, c'est juste choisir peut-être un lieu plus modeste ou ailleurs ou plus reculé, mais vivre seul. Avoir peut-être un espèce d'équivalent, mais on s'y retrouve et ce stress quotidien qu'on a en moins, on l'accepte dans les peut-être 15-20 minutes de trajet qu'on a en plus, parce que ça fait partie de notre équilibre. Paf, on a relâché un boulet, mais on doit accélérer un peu plus. Traduction, on fait un peu plus de distance, mais au moins, il n'y a plus le frein à main qui est enclenché, quoi. Ça, c'est un truc assez simple, on peut une espèce faire des compromis comme ça, même sans se dire qu'on a juste lâché les boulets et c'était facile. Parce que la première chose à retenir, peut-être, c'est que c'est pas facile, souvent, de relâcher les boulets. Parce que même si chaque choix est un choix, il n'est pas forcément conscient. Et les choses qu'on fait inconsciemment, mais ce que je fais là, ça plairait pas à telle personne. En fait, on s'en fout. Mais par contre, on l'a tellement intériorisé qu'on le prend avec nous, et là, on a quelque chose qui devient interne. Et ça, c'est des règles qu'on peut avoir, qu'on sait nous-mêmes, qu'on a décidé d'entretenir. C'est quand on est jeune, et puis qu'il y a ce prof de sport qui nous dit, toi, de toute façon, tu seras jamais bon en sprint. Et nous, toute notre vie, on se dit, oh, putain, fais chier, moi, je suis pas explosif, je serai jamais bon en sprint. Alors qu'en fait, peut-être que si on s'entraîne, on va péter tout le monde. Mais on a intériorisé ça, et ça nous a marqué à un moment où c'était pertinent d'avoir quelque chose qui est resté en nous, cette évolution primaire, où on se dit, bon, voilà, nos parents qui sont bien intentionnés vont nous donner des informations qui sont extrêmement importantes pour le reste de notre vie. On va les qualifier comme extrêmement pertinentes. Une manière de dire qu'il faut faire extrêmement attention à qui on confie nos enfants dans la première période de vie, parce que ce qui peut être inculqué à ce moment-là peut nous rester toute une vie. Mais ça, c'est des boulets, au sens figuré cette fois, qui sont beaucoup plus difficiles à relâcher. Et donc, je dirais la première libération, pour ainsi dire, même si ça paraît peut-être un peu trop profond, elle est justement dans nos propres profondeurs. Et donc, il faut savoir quelque part qui on est, qu'est-ce que tous nos actes ont représenté jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on peut continuer d'évoluer, ce qui nous freine et ce qui nous accélère. Et savoir si ce qui nous accélère nous permet d'avancer plus vite dans la bonne direction ou non, et finalement ça va super loin. Tu peux dire, ok, j'ai fait mes études d'avocat, j'ai fait mes études de médecin, j'ai fait mes études de sport, j'ai fait ce truc au niveau académie, j'ai fait ça, ça me permet de faire ça et d'être payé tant de l'heure. Super. Est-ce que je suis heureux?
Hey, je gagne 150 balles de l'heure au niveau des yeux de tout le monde et tout, je suis parfait, machin, j'ai ma chérie, j'ai tel truc et tout. Admettons que après 10 ans de mariage, ces trucs et tout, tout semble parfait et on se dit, putain, c'est un vide incroyable, qu'est-ce qu'on fait? Là, lâcher les boulets, les enfants, est-ce que c'est des boulets? Tu vas les lâcher comme ça? C'est tes enfants, c'est ta responsabilité quand même, qu'est-ce que tu fais? Super chaud. Moi, à un moment où j'ai lâché, je pense, tous mes boulets, pour répondre enfin à ta question, c'est que j'ai eu un moment où j'étais célibataire, entrepreneur indépendant, et j'ai pu faire exactement tous mes choix qui dépendaient que de moi pendant 6 mois. Et ça a été extrêmement puissant et extrêmement salvateur, si je peux utiliser ce terme. Et je pense que justement, tous les choix que j'ai pu faire après, donc les choix qui ont découlé il y a quelques mois auparavant, ont été très puissants parce que j'ai pu justement me dire « il venait vraiment de moi ». Et avant de me dire « il venait vraiment de moi », j'ai dû d'abord me débarrasser de pas mal de trucs qui étaient puissants encore dans ma tête. Et je me disais « non, mais je peux pas faire ça, ça ». Qui m'a dit ça? À quel moment? Tu grattes, tu fais « putain, c'est ce con qui à ce moment-là m'a dit ça et depuis toute ma vie j'ai pensé que j'avais pas le droit de faire ça ou que j'étais mauvais là ou que j'étais seulement bon ici ». Tu dégages ça, tu commences à travailler, comme d'hab, lier ça à des actions concrètes, même si c'est un premier pas, et ensuite tu te libères petit à petit de plein de trucs. Mais version simple, il y a des gens toxiques qui servent à rien, il faut les dégager. Et regarder si on va mieux sans eux, si on va mieux sans eux après une semaine, 2 semaines, bon bah parfait, ils ont pas besoin de revenir dans notre vie, il suffit de pas répondre, c'est pas compliqué. À un moment, il suffit de pas répondre. On peut même faire encore plus simple, on peut bloquer les gens, si c'est via les réseaux sociaux, ce genre de trucs. Ça veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire qu'on a compris que telle personne, en tout cas à tel moment, ne nous apportait rien via tel format. Et si on revient aux réseaux sociaux par rapport au podcast, ce genre de choses, avoir un podcast non constructif, pour le moment, et j'ai fait, je pense, des dizaines et des dizaines de podcasts, moins que toi assurément, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de podcast qui n'avait rien de constructif. C'est-à-dire qu'on met d'abord en place un truc positif, et on essaie d'avoir un maximum de ce type d'instant. Si à l'inverse, il y a des moments, des médias, des structures, des situations finalement qui ne permettent pas une évolution, pour moi, ce sont aussi des freins. Donc, je dirais regarder les personnes, regarder le type d'interaction, donc qui est lié aux personnes aussi, et ensuite regarder l'interaction qu'on a le plus souvent, tous les jours, c'est notre propre discours interne. Et à nouveau, c'est ce qu'on emmène avec nous, que ce soit nos paramètres physiologiques, notre compréhension, nos connaissances, etc. Notre propre intériorisation de ce qu'on doit ou ce qu'on ne doit pas faire. Si on peut travailler là-dessus, à mon avis, on va le plus loin possible pour pouvoir vraiment dégager les boulets les plus puissants, mais pourtant les plus discrets. Je sais pas si je me suis perdu ou de nouveau ça.
Non, tout à fait. Et mais je rebondis juste sur un truc, l'importance de la parole, parce que t'as parlé justement de celui avec qui on disait qu'il saurait jamais sprinter et du coup qui s'ancrait ça dans la tête, ou de personnes qui t'ont dit des choses et que toi tu t'étais ancré dans la tête. Et ça me fait penser à un des 4 accords Toltec. Je sais pas si t'as lu ce livre. Et le premier, c'est et une parole vraie ou juste, quelque chose comme ça.
Impeccable, oui.
Et ça te permet de prendre conscience que la parole a un pouvoir. Ça peut être un pouvoir bienfaiteur ou un pouvoir maléfique. Et je me souviens, ça m'a marqué qu'il y avait un petit exemple comme ça dans le livre. C'est une mère, elle rentre du boulot, elle est crevée, etc. Et puis t'as sa fille qui chante, et elle, ça lui donne encore plus mal à la tête. Et elle se sent comme ça attaquée. Donc elle lui dit, arrête de chanter, tu chantes mal. Et tu vois, la petite fille, ben elle, du coup, elle va enregistrer ça, je chante mal, etc. Elle va se le répéter en croyance intérieure pendant des années et des années et des années. Et adulte, à 20 ans, à 25 ans, elle n'osera plus chanter, elle n'aura jamais osé de sa vie, parce que ça sera tellement ancré en elle qu'elle n'osera plus combattre cette croyance intérieure, cette espèce de faux rêve qu'elle a fait, tu vois. Alors que peut-être elle a une voix magnifique. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière, Alison, qui a une voix magnifique, mais vraiment magnifique. Tu fermes les yeux et tu pars au paradis tellement elle est sublime. Et elle m'a dit, pendant des années, j'ai pas chanté parce que j'avais peur d'exprimer ma voix. Et je dis, mais c'est un tel cadeau au monde. Quel égoïsme, quelque part, tu vois, de garder ça pour toi tellement c'était beau. Et tu vois, tout ça, c'est à cause justement de personnes potentiellement quand elle était enfant, etc., qui lui ont dit des choses. Et du coup, ça reste dans ta tête. Et on sous-estime parfois la responsabilité qu'on a simplement à discuter, tu vois, à dire des choses. On a une vraie responsabilité dans ce qu'on dit, dans l'impact que ça peut avoir sur les gens. On se dit, c'est que des mots, donc c'est pas grave, mais les mots blessent autant et peuvent changer le monde quelque part. Enfin, ça fait un peu idéaliste, mais je trouve que on perd un peu la conscience et la responsabilité de la force de ce qu'on peut transmettre, que ce soit positivement ou négativement, par les mots. Et c'est vrai d'ailleurs que le podcast, à cet égard, Et une merveilleuse façon de le faire et de le partager. Je te le disais un petit peu tout à l'heure, mais moi, depuis que j'ai commencé cette aventure, ça a sincèrement et réellement changé ma vie par les rencontres que j'ai faites, par le terreau de réflexion que ça m'a apporté, par les expériences aussi que j'ai faites, parce que bah, du coup, certains de mes invités font des choses, tu vois, et donc m'ont permis de, en général, tu vois, j'aime bien m'intéresser à leur monde, donc soit aller les rencontrer, soit tester ce qu'ils proposent, ce qu'ils font. Tu vois, là, par exemple, au mois de février, je vais faire un stage de yoga Tummo. La semaine dernière, j'ai fait une retraite ayahuasca. Enfin, j'ai fait des trucs hyper variés, hyper différents qui m'ont tout enrichi très profondément. Et tu vois, j'ai l'impression voilà, vraiment, c'est un chemin que j'ai commencé à arpenter il y a déjà quelques années. Mais le podcast est beaucoup plus récent. Ça doit faire un an à peu près que je l'ai lancé. Et sur cette année, j'ai l'impression de jamais avoir autant évolué sur ma réflexion, sur mon chemin de pensée, sur mon développement personnel, et de me sentir plus heureux, plus épanoui et plus énergique que jamais. Alors que, tu vois, il y a certaines personnes qui pensent que vieillir, c'est une malédiction et que notre corps ne fait que dégénérer d'année en année. Et moi, j'ai 30 ans aujourd'hui et je me suis jamais senti aussi bien et aussi fort dans ma vie, tu vois. Et ça, c'est en partie grâce à toi, grâce à tous les invités que j'ai eus avant toi et à tous ceux que j'aurai après toi. Donc, merci.
Ouais, toi aussi. Écoute, ça fait chaud au cœur d'entendre ça comme ça. J'ai proche de ton âge, hein, 33 ans. Et je ne pensais pas aussi, en approchant justement la trentaine, qui est une crainte pour pas mal de personnes, hein, que je me sentirais mieux maintenant que bah, à mes 23 ans, voilà, où clairement, physiquement, j'avais peut-être quelques points spécifiques où je pouvais exprimer peut-être plus de force, plus de puissance, etc. Et en fait, même pas. Et c'est ça qui m'a le plus surpris. Donc ça, c'est la petite parenthèse ici, mais tu as mentionné des trucs extraordinaires. Qui s'ouvre à des expériences comme de l'ayahuasca ou des expériences qui sont finalement des manières de stimuler le DMT, hein, qu'on appelle le diméthyltryptamine, qui est une molécule extrêmement intéressante, extrêmement controversée aussi, parce que lorsqu'on parle de ce type de molécule, on peut parler donc du coup de... je sais pas jusqu'où tu veux peut-être que je place une censure dans ton podcast, parce que...
Il y a pas de censure, je vais faire, pour être honnête, lundi, j'enregistre justement un podcast avec Alison, cette fameuse Alison qui chante et qui est celle qui a organisé cette fameuse retraite ayahuasca. D'accord. Donc, on va parler en long et en large de ce sujet. Je pense que c'est important, ça sera important de mettre un disclaimer au début, parce que c'est un outil extrêmement puissant dans son côté positif, mais j'imagine qu'il peut avoir la même puissance dans son côté négatif si il est pas bien, il est pas fait dans un bon contexte avec quelqu'un de réellement bien intentionné. Mais en tout cas pour moi, ça a été une expérience vraiment merveilleuse qui d'une certaine façon a changé ma vie, de par le voyage que j'ai vécu pendant l'expérience, mais aussi surtout des enseignements que j'en ai tirés et qui vont me rester pour le restant de mes jours, et qui étaient vraiment d'une grande richesse, d'une grande profondeur, notamment cette connexion aux énergies et à l'amour des autres personnes qui étaient là, que je connaissais pas, et derrière toutes leurs apparences. Tu vois, en général, quand tu vois quelqu'un, t'as tout de suite ton mental qui arrive et qui va le qualifier, qui va le mettre dans une case, qui va dire celui-là, il est plutôt comme ça, il est plutôt comme ça, je pense que je m'entendrai bien, pas bien. Et c'est plus fort que toi, même si t'essaies d'être bienveillant. Moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est la bienveillance. Mais ça, c'est une valeur consciente, tu vois, c'est une valeur du mental. Et il y a une grosse différence entre être bienveillant parce que tu l'as décidé et être bienveillant parce que tu le ressens. Et du coup, justement, dans ces moments-là, alors que je les avais rencontrés, que j'avais commencé à les catégoriser, etc., pendant les retraites, enfin pendant les cérémonies d'ayahuasca, il y a tout ça qui tombe. Tu vois leur beauté intérieure, tu te rends compte qu'il y a une certaine unicité, de connexion avec tout le monde, avec leur amour, avec leur bonté, et tu vois cet amour infini qu'ils ont tous en eux et qu'ils ont tous envie de partager avec toi, et que toi tu leur envoies aussi, et chacun est un peu un miroir d'amour entre guillemets de l'autre, et ça fait hyper bisounours ce que je dis, mais c'est un enseignement vraiment d'une grande valeur qui montre que ouais, il faut pas avoir peur d'aimer les autres, tu vois. Je trouve que justement tu parlais du stress tout à l'heure dans nos sociétés, et on a tendance à se laisser parfois un peu submerger par celui-là et avoir peur de l'autre, tu vois, peur d'exprimer nos sensations, peur de vivre nos émotions. On a toujours le mental qui prend le contrôle de tout. On a l'impression que devenir adulte, c'est justement tout intellectualiser pour réussir sa vie, pour tout contrôler, etc. Et on se permet plus de vivre nos émotions dans leur expression la plus sincère. Tu vois, j'ai une fille, excuse-moi, hein, je pars dans plein de choses, mais j'ai une fille qui a 11 mois. D'ailleurs, je vais publier une newsletter là demain sur les enseignements que j'en ai tirés. Parce que tu regardes un enfant, ça vit simplement ses émotions de la façon la plus pure qui soit. Et nous, on a peur de s'exprimer, on n'ose plus rugir sous la douche, on n'ose plus prendre les gens dans les bras, on n'ose plus mettre de la vie, de l'émotion quand on parle, de mettre des gestes, d'utiliser des superlatifs comme sublime, merveilleux, incroyable. On va dire ouais, c'est beau.
C'est pas mal.
Ouais, voilà. Il faut mettre de la vie dans tout ça, quoi. Et donc, entre justement ma fille qui m'inspire beaucoup et cette retraite qui m'a permis de me reconnecter beaucoup plus à mon cœur et à mes émotions et à laisser un peu de côté mon mental qui est très présent chez moi parce que je suis entrepreneur en parallèle du podcast que je fais. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, extrêmement passionné, plutôt cartésien, plutôt scientifique aussi dans ma façon de penser. Et donc, potentiellement, j'étais typiquement l'archétype de celui qui autorise pas assez à son cœur de s'exprimer, alors même que dans mes valeurs profondes, comme je le disais, la bienveillance, l'amour, etc., c'était des choses qui étaient importantes pour moi. Mais elles s'exprimaient toujours sous le prisme de mon mental et jamais sous leur expression la plus sincère, la plus pure qui soit.
Ok, j'ai compris une chose, c'est que tu as enlevé tous les voyants rouges qui éventuellement me disaient « attention, oui, là, ce que tu vas dire, parce qu'il est peut-être pas ouvert à un discours comme celui-là, ça a fait vert, c'est bon. » On peut y aller. Non, mais c'est cool. C'est cool parce que je m'arrête très souvent bien avant ça, comme tu peux l'imaginer, parce que voilà, ça devient pas un comportement majoritaire, justement, le fait de pouvoir aller creuser pour pouvoir justement laisser ces émotions s'exprimer. Moi, j'aime bien la phrase « ton ressenti est toujours juste ». Ça ne veut pas dire que tu as raison de ressentir ça à tel ou tel moment, mais ça veut dire que si tu veux avoir vraiment une discussion sincère, il faut partager, ne serait-ce qu'un instant, la réalité de l'autre personne. Ça ne veut pas dire être d'accord. Je me sens mal. Ok, je suis désolé, j'avais aucune mauvaise intention de ce côté-là, je pensais faire ça. Qu'est-ce que toi, tu as compris ? Ou peut-être même avant. Qu'est-ce que toi t'as compris? Ok, bah, j'avais ça comme intention et on partage ce truc-là. C'est encore plus que de la communication non violente, je crois, c'est ça. C'est encore plus que ça. C'est vraiment dans l'intention être ok avec le fait de partager la réalité de quelqu'un sans juger, de respecter son ressenti. Le respect, il part de là en fait. Il n'a pas besoin d'être lié à des milliers d'artifices et puis 50 bouquins différents qui expliquent comment il ne faut pas être violent avec les autres. Si tu ne peux pas être violent avec les autres, c'est pas que tu choisis d'être gentil. C'est que t'es un mouton, en fait. Là, je suis très dur avec ce que je veux dire, hein, parce que tu peux pas être gentil si t'es pas capable d'être méchant. Être gentil, ça veut dire que tu peux aussi être méchant avec quelqu'un qui vient essayer de tuer ta petite, par exemple. Tu dois pouvoir le buter, ce mec qui essaie de tuer ton enfant. Tu peux pas juste, ah, je suis dans l'amour, vas-y, tue ma petite, c'est pas grave, je reste dans l'amour, etc. Enfin, tu vois, je fais exprès la caricature parce que on vient buter mes enfants, moi je deviens le pire des enfoirés, mais pas parce que je suis le pire des enfoirés. Parce que ce mec, il ne touche pas à mes enfants si j'en ai. J'ai pas d'enfants comme toi, mais pour te dire, il y a aussi ce truc. On peut être gentil que si on est capable d'être extrêmement violent aussi. Et on choisit de pas l'être. Donc là, on est consciemment gentil. C'est aussi un truc qui sort un peu de l'amour que certains appelleront l'amour inconditionnel. Non, l'amour a des conditions. J'ai pas un amour pour le gars qui vient tuer mes enfants. Point. Je ne laisserai pas quelqu'un attaquer les personnes que j'aime. Point. Il faut pouvoir être violent aussi. Donc ça sort un peu de certains dogmes qu'on a dans le niveau spirituel avec les maîtres spirituels qui tout à coup nous amènent que vers la dispiration, puis on va vibrer vers le néant, mais on n'a pas d'expérience réelle parce qu'il faut tout dématérialiser. Enfin voilà, il y a le spirituel que chacun va expérimenter comme il le souhaite, mais il y a aussi le matériel. Et sans réussite dans la matière, pour revenir un peu au contrat social et ce genre de choses, ben on fait rien. Parce que si on dépend des autres pour avoir notre expérience spirituelle, on contrôle plus rien, puis on est complètement perché, comme on aime bien dire un petit peu dans ce domaine. Voilà, moi je fais du yoga depuis un moment, donc évidemment tu peux penser que j'ai pas mal d'interactions de ce côté-là avec des personnes qui sont très facilement perchées, mais l'ancrage est important aussi. Pour revenir à quelque chose de très terre-à-terre, physiologiquement parlant, le DMT, le diméthyltryptamine, qui est cette molécule incroyable qu'on peut avoir dans différentes expériences on parle d'expériences modifiées de conscience, certaines personnes parlent aussi de near-death experiences, de NDE, qui sont ces moments où, au niveau, par exemple, d'un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, le DMT est aussi sécrété pour protéger, pour éviter les dégâts au niveau du cerveau. Je pense que tu sais que quand on meurt au bout d'un moment, un des organes qui ne peut pas tenir très longtemps sans une alimentation, hein, comme on a discuté depuis le début, c'est le cerveau. J'ai une expérience personnellement assez forte. À 18 ans, mon ex de l'époque est décédé d'un arrêt cardiaque à 17 ans. T'inquiète pas, un seul instant, si ça fait un moment que j'ai pu parler de tout ça et tout, moi j'ai fait une dépression pendant une année après ça, où globalement je me suis réfugié dans un jeu vidéo. Pour les curieux, ça s'appelle World of Warcraft, où j'étais totalement dans mon monde et j'avais pas besoin d'en sortir. J'étais très content là-dedans, entre guillemets. J'étais quand même en dépression. Et j'ai compris que ce qui n'avait pas permis à cette personne éventuellement d'avoir une greffe d'organe ou quelque chose pour recommencer à vivre, c'était les dégâts au niveau du cerveau. Et le truc intéressant avec ce que tu dis maintenant, c'est que le DMT qui est sécrété, si tu as tout à coup un arrêt cardiaque, pour qu'en fait ton cerveau aussi physiologiquement puisse ne pas subir de dégâts, c'est quelque chose qui est aussi extraordinaire, qui permet des expériences qui sont similaires à ce que tu vas pouvoir avoir avec soit la prise directement, donc là, et bien sûr, c'est un conseil pour absolument personne, avoir avec quelqu'un qui peut vous encadrer, et si c'est valable du côté médical et tout, je suis obligé de mettre ce disclaimer, comme on dit.
Non, t'as totalement raison.
Il faut, parce que voilà, je veux pas que t'aies de problèmes par rapport au podcast, et deux, je veux encourager personne à faire quelque chose qui est pas prévu à la base et qui est pas pleinement compris, mais le DMT, c'est quelque chose qui est... Comment est-ce qu'il s'appelle ce gars qui fait des podcasts? Il doit être un podcast 800 ou 900... tu disais
Tim Ferriss?
Alors je pensais pas à lui, c'est un américain qui est chauve, qui a interviewé tous les...
Ah, Joe Rogan,
je te remercie, voilà, j'avais plus son nom. Lui, il parle de DMT depuis beaucoup plus longtemps que tout le monde, et bon, le monde anglophone, c'est aussi un monde beaucoup plus ouvert, hein, donc on va pas dire que toutes les personnes qui parlent français sont restreintes au niveau de leur ouverture d'esprit, c'est pas ce que je dis, mais disons que comme le langage, enfin l'anglais est une langue parler dans le monde entier, même dans les pays non anglophones, parce que c'est la langue d'échange, on va dire, c'est normal qu'il y ait plus d'ouverture d'esprit, parce qu'il y a aussi plus de possibilités de parler avec plus de monde. Donc voilà, pas pour dire les Français ou les francophones, ou les Suisses francophones, ou les Belges sont restreints de ce côté-là. Mais c'est évoqué depuis super longtemps, et le DMT encore récemment, moi j'ai appris que une des manières d'évoluer énormément, donc l'université entre guillemets de certains Indiens, qu'on appelle les Indiens Kogi, j'ai pu rencontrer une Indienne Kogi grâce à une amie à moi à Genève qui a des contacts extraordinaires dans le monde entier. Les Indiens Kogi ont comme étude le fait de rester dans le noir plus de 2 semaines. Et en fait, il se passe quelque chose au niveau physiologique, parce qu'on connaît les différentes hormones hein, du sommeil, la mélatonine notamment. Bon, on pourrait parler de l'hormone de l'éveil aussi, mais l'éveil, on va dire, stressant, la sérotonine, qui n'est pas du tout l'hormone du bonheur, malgré les interprétations qu'on peut avoir dans certains cas, c'est plutôt une hormone qui diminue le métabolisme et qui nous permet d'hiberner ou d'hiverner selon les animaux. Ben, si on va encore un petit peu plus loin, on peut se rendre compte qu'au-delà de la mélatonine, à un moment, on a la cascade hormonale qui amène vers le DMT. Et donc, on peut obtenir des expériences modifiées de conscience en étant pendant suffisamment longtemps dans le noir. C'est pas forcément la méthode la moins stressante, parce que l'obscurité est un stress, à l'inverse de l'exposition à la lumière, qui permet l'entretien de la respiration cellulaire. Parenthèse fermée, certains champignons, le DMT directement, l'ayahuasca, qui est ce mélange de différentes plantes et tout, qui permet finalement d'avoir aussi un inhibiteur de la monoamine oxydase, qui permet finalement d'absorber le DMT, qui autrement n'est pas absorbé, donc cette combinaison de 2 plantes différentes trouvées par les pratiquants, les fameux chamans, pour que justement on puisse expérimenter cette exposition au DMT pendant suffisamment de temps pour avoir des expériences de conscience modifiées ou déployées, ou une expansion de conscience, plusieurs choses, eh ben, c'est lié à quelque chose qu'on peut vraiment choisir d'expérimenter selon plein de critères différents. C'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans d'anciennes civilisations avec des sortes de petits sacs comme ça, qui sont présentés dans différentes anciennes civilisations, les travaux de Graham Hancock qui sont très intéressants là-dessus pour ceux qui veulent aller creuser un petit peu plus loin. Et je pense qu'il y a un lien entre notre capacité à aller plus loin dans la compréhension des choses et quelque part au-delà de ce monde un peu genre obscur, chiant, uniquement matérialiste, mais uniquement dans la réussite matérialiste. Le matériel est important, mais pas au détriment complet d'une expérience spirituelle consciente ou plus ou moins inconsciente ou subconsciente, ce genre de choses. Et je pense que ces outils sont extrêmement puissants. Et ce qui est marrant, c'est que y a certaines choses, là c'est de nouveau hyper controversé, à nouveau c'est en rien un conseil médical, c'est même l'opposé, c'est juste à titre informatif. Le LSD est également étudié du côté de la prévention des maladies cardiaques. Donc quand je dis c'est...
LSD,
totalement, ouais. Et donc c'est pour dire qu'il y a des choses très spéciales au niveau psychotrope hein, qui existent dans la communauté scientifique qui sont étudiées, mais tu peux bien sûr imaginer que le côté charlatan, pseudo-scientifique, gourou, peu importe, sont tous des termes qui sont donnés à toute personne qui étudie des molécules un peu particulières qui permettent d'aller un peu plus loin que les personnes qui n'ont jamais étudié ça. Généralement, les personnes qui attaquent le plus vigoureusement ce type d'expérience sont des personnes qui n'ont jamais eu ce type d'expérience elle-même. Donc, à un moment, si tu veux être un petit peu concret dans ce genre de truc, d'ailleurs, Graham Hancock parle de ça, un des 3 TEDx qui a été interdit, c'est un de ceux de Graham Hancock qui parle justement de ces différentes substances et du DMT, notamment en lien avec les anciennes civilisations, ce qui peut être absolument extraordinaire à regarder. Et Je pense qu'il y a une censure très très puissante de ce côté-là. On pourrait même parler de différentes guerres qu'on a par rapport à des drogues qui finalement sont beaucoup moins violentes que voilà la cigarette tous les jours ou l'alcool tous les jours. L'alcool est parfaitement autorisé, mais est-ce qu'il permet un plus haut niveau d'expression de conscience? Je suis pas convaincu. Hein. C'est plutôt de l'agressivité. C'est plutôt, d'ailleurs, on parlait de libido à un moment, c'est plutôt une diminution de la libido pour la plupart des gens. Bon, encore que ça dépend, la réaction n'est pas pareille pour tout le monde. Mais des drogues comme le LSD ou des drogues peut-être plus douces comme la marijuana. Personnellement, même si j'ai été dreadlock, j'ai pas fumé plus d'une dizaine de fois sur toute ma vie, donc sur 33 ans, je pense que c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais pour dire que, en tout cas, il y a un domaine à explorer, et je pense qu'au niveau, justement, encore une fois, des lois, des régulations, il y a quelque chose qui est pas tout à fait optimal, au mieux, c'est le moins qu'on puisse dire, pour que chaque personne puisse évoluer, à son niveau. Je veux dire, quelqu'un qui prend le volant, bourré, est beaucoup plus dangereux pour moi que quelqu'un qui fume son petit joint tranquille chez lui, en train de jouer à un jeu vidéo, sans dire que c'est un optimal de vie, hein, rien à voir, c'est juste, pour dire, je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus dangereux qui sont très très accessibles que certaines choses qui sont combattues avec une véhémence juste absolument extraordinaire. Et puis certaines de ces molécules ont des propriétés intéressantes dans un cadre, justement un cadre encadré, pas que tout le monde fasse n'importe quoi. Et puis à nouveau, il n'y a rien de type conseil médical derrière tout ça, c'est juste des informations à discuter, à explorer si quelqu'un le souhaite. Mais ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, et je pense que le fait de pouvoir avancer avec ou non certaines molécules à un moment donné, ça pourrait être comme le fait de se dire j'utilise tel aliment pour avoir quelques micronutriments en plus, et puis par exemple je suis à tendance végétarienne mais je mange du foie de ruminant de temps en temps parce que c'est très dur d'obtenir du cuivre, c'est très dur d'obtenir du rétinol, la forme active de la vitamine A, c'est très dur d'obtenir ces vitamines du groupe B, etc. en étant végétalien pour optimiser ma santé. Donc j'ai fait un choix particulier que j'utilise comme un supplément alors que c'est un aliment, c'est quelque chose qui me permet d'optimiser ma santé ou mon objectif général de rester en bonne santé, mais qui correspond pas à dire le reste de mon comportement la plupart du temps. Pour donner un exemple par rapport à tout ce qu'on a évoqué, ayahuasca, LSD, diméthyltryptamine différemment dans les différentes formes ou encore les différents champignons qui existent, c'est aussi quelque chose qui peut être considéré comme peut-être un moment ponctuel de changement radical de certaines compréhensions à explorer ou non, mais clairement, encore une fois, rien à voir avec un conseil médical ou autre, c'était juste à titre informatif, mais il y a des croisements incroyables du côté psychophysiologique, conscience spirituelle ou ce que tu veux. Et moi, je pense qu'il n'y a rien qui est totalement déconnecté. Donc, j'essaie de comprendre un petit peu tout ça, notamment à travers ma propre pratique. Je ne parle pas de la consommation des substances. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, à travers le yoga, il y a beaucoup de choses qu'on peut obtenir. Aussi au niveau des fréquences cérébrales. Parce que finalement, pour revenir sur une dernière conclusion, l'impact des mots, modifier ce qu'on dit a un impact biochimique sur le cerveau. Traduction, selon ce qu'on dit, s'il y a un impact au niveau des ondes cérébrales, notamment les ondes alpha qu'on a quand on arrive dans un certain niveau méditatif, on change l'aspect biochimique de notre cerveau. Traduction, la pensée a un impact sur la matière. Direct. Pour les plus cartésiens d'entre nous, la pensée a un impact biochimique et donc physiologique sur la matière. C'est extraordinaire. Donc, à quel moment on choisit d'explorer ça ou non, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais personnellement, j'aurais jamais pensé pouvoir comprendre autant de choses que depuis que je pratique la méditation tous les jours, depuis maintenant clairement plus de 2 ans, quoi.
La pensée a un impact sur la matière, d'ailleurs, c'est le principe de l'effet placebo. Il y a d'ailleurs un livre de Joe Dispenza qui s'appelle « Vous êtes le placebo » qui explique que, justement, tes pensées, etc., influencent même l'épigénétique et l'expression de tes gènes. Bon, après, je sais pas sur quelle base scientifique est-ce qu'il s'appuie, parce que je crois pas qu'il y ait de documentation à la fin de son livre avec les références qu'il utilise, mais en tout cas, dans l'idée, je trouve ça assez intéressant. Et dans cette comparaison, ce parallèle entre ce type de substances et certains nutriments que tu pourrais aller chercher parfois, ben j'ai un peu l'impression effectivement que parfois ça permet de développer de nouvelles voies neuronales qui te permettent de voir le monde différemment même après. Et tu vois, donc j'ai fait des expériences aussi avec des champignons qui m'ont par exemple connecté de façon beaucoup plus intense à mes sens, à la beauté d'une feuille d'arbre, de l'air qui rentre dans mes poumons, du ciel bleu, etc. Et maintenant, là, ça fait peut-être, je sais pas, c'est peut-être un an que j'en ai pas pris. J'en prends jamais, tu vois. Enfin, c'est juste des expériences que je fais comme ça. De toute façon, il faut quand même rappeler que c'est plutôt des expériences ponctuelles que tu fais dans un certain contexte pour dans une quête d'exploration ou spirituelle ou de réflexion, mais pas de façon récréative tous les week-ends. Et donc maintenant, tu vois, alors que ça fait plus d'un an, et ben tous ces enseignements-là sont restés en moi. Et quand je me lève le matin et que je vais marcher avec mon chien, par exemple, ou que je viens au bureau, bah, je prête un regard beaucoup plus attentif et beaucoup plus reconnaissant et beaucoup plus empli de gratitude sur la beauté du ciel, des feuilles d'arbres, de la petite fleur que je croise sur le trajet. Je sens beaucoup mieux l'air qui rentre dans mes poumons. Et donc, en fait, ça cadre très bien et ça se relie très bien avec la pratique de la méditation que je pratique aussi. Et c'est d'ailleurs, ça me permet de faire une petite ouverture sur le fait qu'effectivement, je pense que ces substances-là peuvent t'aider à atteindre un état de conscience supérieur, entre guillemets, de faire une expérience d'état de conscience supérieur qui vont avoir des conséquences sur le reste de ta vie. Mais il y a des tas d'outils qui nécessitent aucune drogue et qui permettent potentiellement d'atteindre aussi des états semblables. La méditation en est un, je l'ai cité tout à l'heure, le breathwork. J'ai vécu une expérience extrêmement puissante, extrêmement intense avec un breathwork qui était limite aussi fort et aussi intense que l'ayahuasca. Qui est donc il faut le dire. Et c'est marrant parce que quelqu'un, un prochain invité qui va arriver, qui s'appelle Nicolas Agnon, avec qui on va parler entre autres de breathwork, quand il m'avait dit ça au téléphone, qu'il avait réussi à atteindre de tels niveaux de transe, j'avoue que j'avais une forme de scepticisme. Et quand je l'ai vécu, je me suis aperçu à quel point c'était puissant. Et franchement, j'étais très très loin d'imaginer que ça puisse être aussi puissant. Et d'ailleurs, ce Nicolas Agnon, je vais juste faire une petite citation de quelque chose qu'il m'a dit au téléphone et qui m'a beaucoup marqué comme comme image, toi qui aimes bien les métaphores, et qui disait tout à l'heure que rentrer en connexion avec l'autre, c'était aussi essayer de comprendre son schéma de pensée, son prisme de pensée. Et lui, il a une image que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est que on vit chacun dans un aquarium. Ta tête, ta perception de la vie, de la pensée, ton prisme de pensée, c'est un aquarium. T'es dans ton aquarium. Et parfois, quand quelqu'un vient te parler d'un sujet qui est complètement opposé à l'aquarium dans lequel tu vis, eh ben, t'as ton mental justement qui vient te dire non, c'est n'importe quoi, rejette tout en bloc, écoute pas. Et alors que concrètement, t'as pas de raison d'avoir peur d'écouter, si ce n'est, enfin, si t'es sûr de toi, de toute façon, ça va pas te faire changer d'avis. Et si ça te fait changer d'avis, bah c'est qu'au final, c'était peut-être pas si bête ce qu'il avait à te raconter. Et du coup, c'est vraiment comme si quelqu'un venait toquer à la vitre de ton aquarium et que toi, tu restais bien enfermé dedans. Et maintenant, quand je sens que quelqu'un toque à la vitre de mon aquarium, plutôt que d'avoir ce réflexe du mental qui est je repousse, je bloque mes oreilles, j'écoute plus rien et limite j'essaie de partir ou de changer de conversation, ben je me dis c'est une occasion unique d'aller faire un tour dans l'aquarium de quelqu'un d'autre. Et du coup je me dis je vais aller plonger dans le sien, je vais faire un petit tour, on va recommencer et puis je reviens dans le mien après. De toute façon le mien il va pas bouger. Hein. Et donc j'aime beaucoup cette image et voilà. Ah oui, et puis un dernier sujet par rapport à la tu sais, tu parlais tout à l'heure de la marijuana. C'est pareil, tu vois, j'ai pas une consommation assidue de cannabis, mais ça peut m'arriver une fois de temps en temps avec ma femme. Et en général, quand on fume un joint, on regarde un film drôle et on se marre toute la soirée, tu vois. Et à côté de ça, je bois pas, je mange hyper bien. Je pense que j'ai une hygiène de vie qui est entre guillemets exemplaire. Et je me demande, je mets des grosses parenthèses, hein, mais si ça pourrait même pas être considéré ces soirées-là comme des moments de santé aussi, parce que passer un moment, une soirée où tu vas rigoler, où tu vas vraiment être en connexion avec l'autre, que tu vas te marrer, que tu vas passer un super bon moment et tu vas relâcher un petit peu tout et tout, ça fait du bien aussi, tu vois, mentalement. Après, tu peux y arriver de bien plein d'autres façons, hein. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut fumer un joint pour passer une soirée avec sa femme et bien s'amuser et rigoler. Mais ça permet potentiellement un moment différent qui a aussi une valeur en tant que telle et qui potentiellement, je pense, peut avoir des bienfaits pour ton cerveau, pour ta santé, pour ton bonheur. Et donc voilà, donc tout est pas noir ou blanc, bien sûr. Après, si tu commences à fumer tous les jours, c'est plus du tout la même, tu vois. Mais voilà. Bon, ouais, je vais fermer cette petite parenthèse sur les états de conscience élevés ou modifiés. Okay. Sauf si tu avais une dernière chose que tu voulais dire.
Et... alors, si c'est une dernière chose, volontiers, si tu m'autorises, je trouve que
ouais,
je prends
moins
de minutes.
Non, vas-y, vas-y, à ton aise.
C'est gentil. Donc, comme tu proposes, je saute sur l'occasion. J'aime bien ton idée d'aquarium et le fait de pouvoir partager, entre guillemets, l'aquarium de l'autre pendant un moment, mais de reconstruire quelque part ton bloc après. Aussi avec le côté où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette base qui est fondamentale pour moi. C'est une bonne intention et liée avec une sorte de, bienveillance fondamentale, j'aime pas trop, mais moi, si on me donne un vœu à réaliser, on me dit oui, voilà, demain tu peux être ce que tu veux. J'avais demandé à un moment, je vais pas mentionner le contexte, mais j'aimerais être aussi puissant que je suis responsable quelque part. Donc responsable et bien, non, j'aimerais être puissant à la hauteur de ma bienveillance. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que j'aimerais, c'est le fameux science sans conscience n'est que ruine de l'âme ou ce genre de choses. Et si on donne trop de puissance à quelqu'un qui ne contrôle pas quelque part ce qu'il est en train de faire, l'intention ne suffit pas non plus. Par contre, si tu as une puissance et donc un niveau de responsabilité qui correspond à ta bienveillance, génial.
Et là, ce qui serait cool, c'est plus quelqu'un est vraiment fondamentalement bienveillant, plus il pourrait être haut placé dans notre société. C'est pas du tout ce qu'on voit maintenant avec le nombre de sociopathes qui ont beaucoup trop de pouvoir, mais ça c'est encore autre chose, et puis c'est un avis personnel que personne n'a besoin de partager, c'est juste ce que moi je pense. Je pense que le tri qu'on a avec les personnes qui sont sélectionnées pour un certain niveau de puissance ou un certain niveau de fortune est assez malsain, parce que l'argent est dépourvu de base d'une valeur, en tout cas d'un côté éthique. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout ça, c'était pouvoir partager la vie de quelqu'un, c'est bien, mais pouvoir aussi ne pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas aussi bien intentionnées que je pense toi et moi, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Après, je vais dire en tout cas que moi, dans l'intention, comme ça toi tu choisiras de faire ce que tu en veux, et faire attention aussi, parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui n'ont pas pu vraiment s'élever elles-mêmes autour de nous que de personnes incroyables qui ont pu faire un travail sur elles-mêmes et qui donc vont pouvoir aussi nous apporter quelque chose. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous tirer vers le bas. Je pense que cet aquarium, entre guillemets, cette protection, cette aura, c'est ce qu'on veut, est peut-être aussi très importante pour pas qu'on se dégrade nous-mêmes trop facilement. Parce que l'influence des autres doit pouvoir être choisie et donc ne doit pas être subie nécessairement en étant radicalement ouvert tout le temps. Et être juste un canal, comme certains vont dire, je capte les énergies de tout le monde et tout. Bah, si t'as des gens géniaux autour de toi, cool, génial, profite. Si t'as trois enfoirés et deux manipulateurs autour de toi, bah, passe un bon moment, courage, quoi. Donc, savoir aussi, se protéger, quoi.
Mais après, à cet égard, c'est vrai que ma réalité est particulière, et je te disais que depuis que j'avais entrepris ce projet de podcast, il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué extrêmement positivement dans ma vie, et notamment le fait que les interactions que j'ai autour de moi, que ce soit avec mes invités ou avec les auditeurs, parce que j'échange avec certains qui m'envoient des mails, etc., bah, sont toujours hyper bienveillants et m'aident et nous aident les uns les autres. Enfin, tu vois, je te parlais d'un truc hyper vertueux, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est pour ça que je me sens aussi hyper bien, parce que parfois, je m'étais parfois peut-être senti en décalage avec certaines personnes, et là, je me suis créé une sorte de monde autour de moi grâce à ce podcast, de gens qui pas forcément qui pensent comme moi, tu vois, mais qui ont en tout cas la même volonté de s'élever, entre guillemets, de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais dans la bienveillance, sans écraser les autres, simplement pour soi et puis pour les autres aussi. Donc c'est quelque chose d'hyper positif, d'hyper vertueux, qui me nourrit énormément, et c'est pour ça que j'ai peut-être cette image un petit peu de bisounours, mais c'est parce que j'ai changé un petit peu, tu vois, on dit un peu, c'est Mathieu Stéphanie qui dit ça, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ben, j'ai de la chance, les 5 personnes que je côtoie le plus, et même les 10 ou 20 que je côtoie le plus, sont plutôt vertueuses.
Désolé, ça a duré plus d'une minute, c'est pas faux.
Non, t'inquiète.
J'ai essayé.
Au contraire, c'est une conversation super intéressante. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de tout ça, mais c'est ça aussi qui est beau, tu vois, et c'est ça qui rend le podcast authentique et qui fait que je les prépare pas trop, parce que je me laisse porter par la conversation et l'énergie qui en découle. J'aimerais quand même rapidement, je dis rapidement, mais je peut-être pas rapidement, mais j'aimerais aborder. Je vais terminer par la lumière rouge, donc ça, il faut absolument qu'on en parle. Mais avant, je voudrais quand même qu'on parle rapidement du carburant pour ton cerveau, donc de l'alimentation, d'autant plus que, indépendamment de toutes tes connaissances scientifiques sur la nutrition, qui me semblent de grande valeur et dont j'aimerais vraiment pouvoir profiter, j'aime aussi beaucoup la démarche que je pense que tu as eue vis-à-vis de l'élevage industriel, vis-à-vis de l'autonomie, vis-à-vis du bien-être animal, parce que c'est un sujet qui m'anime particulièrement, sur lequel j'ai eu tout un parcours où j'essaie de trouver des réponses en essayant de trouver la meilleure alternative à la fois pour ma santé, pour ma performance, tout en étant en accord avec mes valeurs, avec les choses que je rejette et les choses que je n'accepte pas. Donc je pense, comme toi, eu une première tendance à diminuer ma quantité de protéines animales, que ce soit viande et poisson. Et puis après, je me suis aperçu que être végétarien totalement, ça m'allait pas vraiment. Donc maintenant, je suis dans une autre phase où mon beau-père est chasseur, et il chasse que des bêtes âgées, en parfait respect avec la nature. Tu vois, ça lui arrive d'ailleurs souvent d'y aller, de voir des animaux et de pas les tirer, parce qu'il correspond pas à son code d'honneur, on va dire. Son code d'honneur est très fort, et donc voilà, il veut que des bêtes âgées, etc., qui répondent à certains trucs, qui est sûr de pouvoir les tuer directement. Et je trouve que ça répond bien à mon idéal de ce que devrait être de la bonne viande, c'est-à-dire une viande qui a vécu toute sa vie dans la nature, qui a pu vivre sa vie comme elle le souhaitait et qui ne s'est pas rendu compte qu'elle était tuée. Et parce que t'as des élevages qui sont potentiellement vertueux, mais t'as toujours le problème de l'abattage, etc., qui est encore très normé, où les bêtes sont extrêmement stressées, où elles voient les autres se faire tuer devant elles. Et du coup, tout ça, j'ai du mal, quoi. Et je m'étais dit peut-être que du côté des poissons, c'est mieux. Mais là, je viens de terminer un documentaire sur Netflix qui s'appelle Six Pricey, un truc comme ça, et qui montre un petit peu toute l'horreur de la pêche industrielle, que ce soit en termes de pollution, de massacre, de durabilité, et les labels qui sont censés nous permettre de faire des choix éclairés et de savoir quels poissons sont potentiellement, enfin répondent à cette volonté d'être dans une pêche durable, en fait sont complètement biaisés, sont financés par Unilever ou des choses comme ça. Enfin, donc tu peux même pas te fier à ça. Les poissons d'élevage, je pourrais dire qu'il y a une solution dans les poissons d'élevage, c'est pas mieux, ils sont il y a une surpopulation dans tous les élevages, du coup ils développent plein de maladies. Enfin, c'est une boucherie, tu vois, c'est comme les poules en batterie où elles sont 10 au mètre carré et tu te demandes même comment quelqu'un a pu avoir un jour l'idée de mettre autant d'animaux sur une aussi petite parcelle. Enfin, tu vois, je suis d'accord que tu veuilles augmenter le rendement, etc. Pourquoi pas, tu vois. Mais à un moment, tu vois, il faut quand même réussir intellectuellement à penser à un truc aussi fou. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Comment est-ce qu'on a réussi à mettre à ce point-là de côté notre humanité sur l'autel du rendement et de la rentabilité? Et pourtant, je suis pas du tout un anticapitaliste, etc. Hein, mais c'est juste que je trouve qu'on est arrivé à de tels extrêmes, justement, dans la maltraitance animale, dans l'élevage industriel, etc. Que voilà. Donc c'est un vrai sujet. Comment allier ces convictions-là que je pense que tu partages, mais aussi ta volonté d'être en bonne santé et d'être la meilleure version de toi-même, d'autant plus que tu fais pas mal de sport. Donc il y a des contraintes spécifiques aussi à l'exercice de tes activités sportives qui sont en plus liées à ton métier. Donc dans ton cas, c'est d'autant plus important. Comment est-ce que t'as réussi à concilier tout ça? Excuse-moi pour cette longue introduction. Et où est-ce que t'en es aujourd'hui?
Magnifique. Alors je pense que le sujet doit me passionner probablement autant que toi, sans vouloir apporter, tu vois, qui est le plus passionné, on s'en fiche, c'est pas l'idée, mais je pense que j'apporte probablement une importance similaire à la tienne sur le sujet. Et j'ai fait pareil que peut-être pour la température, si jamais les gens veulent aller un petit peu plus loin, j'ai une vidéo que j'ai appelée un ancien vegan, donc je parlais simplement de moi-même, mais il faut bien mettre un titre quelque part, Vision Sacred Cow, qui est un film, je sais pas si tu l'as vu. De la vache sacrée en traduction.
J'ai vu Game Changer, mais...
D'accord, ok. Beaucoup moins qualitatif, Game Changer, si je peux me permettre, oui. en très peu de temps.
C'est du documentaire spectaculaire, comme Netflix aime bien les faire.
C'est ça, oui. Alors, non, pour ce côté-là, c'est réussi, mais pour voilà, la qualité de l'information et peut-être la démarche philosophique derrière, c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, à regarder avec un œil critique, pour la petite parenthèse, mais Sacred Cow a un côté très intéressant pour un ancien végétarien, c'est justement sur la qualité de l'élevage, parce qu'on parle justement d'élevage, on parle de ruminants, et on parle de ce qu'ils peuvent avoir comme place dans l'écologie, contrairement à un film qui m'avait fait devenir végétalien à l'époque, qui était Cowspiracy. Donc à l'époque, j'avais vraiment pris ça comme une espèce de réalité, une vérité vraie, comme on dit. Et en fait, voilà, c'était totalement orienté, comme tout documentaire, hein, bien sûr, donc on garde un œil critique, je ne l'avais pas autant développé à l'époque. Et je pensais que en gros les vaches étaient plus problématiques que toute notre ère industrielle et l'état actuel de l'utilisation de toute l'énergie, de littéralement l'écologie au sens littéral du terme, la gestion des ressources pour dire ça simplement. Et en fait, un élevage, certaines populations qui justement ne peuvent pas vivre à certains endroits sans élevage peuvent vivre à ces endroits-là tout en ayant un impact positif et pas négatif sur la fertilisation des sols qui est à la base de tout. La vie de la Terre dépend des 20 premiers centimètres sous le sol, à peu de choses près. Donc 80% de la biomasse se trouve dans les 20 à 30 premiers centimètres sous le sol. Donc on voit ce qu'il y a au-dessus, mais on voit pas ce qu'il y a sous nos pieds. Et pourtant, c'est à la base de la survie de tout ce qui se passe dans la planète. L'humus, la qualité des sols, etc. Nous, on défonce tous les terrains, la monoculture industrielle, en considérant que la Terre est juste un support, alors que la Terre est vivante. Et c'est pas un truc de bisounours. C'est n'importe quel biologiste, justement, très sérieux, va aller regarder la qualité des sols et ce qu'il y a derrière. On se rend compte que c'est là que tout se passe. C'est là qu'on se rend compte de l'importance des asticots, l'importance des abeilles après pour la suite, qui est du coup en dehors de la Terre, qui est beaucoup plus facilement visible, et de l'interaction entre toutes ces choses, et donc du coup aussi, parce qu'on va parler caca un instant, des bouses de vache, et de ce fertilisant extraordinaire qui n'est pas du tout recyclé comme il faut, d'où l'excès d'azote qu'on peut avoir autour des élevages industriels, etc. Alors qu'en fait, les vaches sont juste censées brouter tranquillement, nourrir le sol, je pense que tout auditeur a compris comment, et avancer un petit peu plus loin. Et on voit des zones absolument incroyables. Là, par exemple, il y a des fromages qu'on appelle des fromages de vaches qui ont été pâturées dans les alpages. C'est extraordinaire. Et c'est des paysages qui sont entretenus par ce type de choses plutôt que dégradés à cause de mauvaises pratiques. Tout ça pour dire que voilà, j'ai évolué sur pas mal de domaines, mais j'ai évolué surtout au moment où j'ai compris que moi-même, je pouvais avoir un impact différent par rapport à ce qui se faisait. C'est-à-dire que quand j'ai pu m'occuper de chèvres en agriculture biologique, 38 ou 39 chèvres, je ne sais plus, à la ferme biologique de la Touvière à Genève, j'ai été stagiaire, hein, donc tout en bas de l'échelle, je n'avais pas de prétention, je voulais juste vivre l'expérience. Génial. On m'a montré, ouais, trop cool, et puis les chèvres ont tout leur caractère et tout, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà eu des chèvres ou autre chose. Ou...
Non, j'ai jamais eu des chèvres, mais en tout cas, justement, j'ai envie de vivre une vie un petit peu, je fais une parenthèse, un peu plus proche de la tienne, c'est-à-dire qu'actuellement, je vis en ville à Palavas, au bord de la mer, parce que j'avais très envie d'être proche de l'eau. Et maintenant, je ressens un appel très, 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 très fort de la nature, de la montagne. Je rêve de venir habiter sur les hauteurs de Thonon avec une vue sur le lac Léman et d'avoir un gros terrain pour avoir un potager, un noyer, un petit verger, des poules, etc. Enfin, ça, c'est un vrai rêve qui m'appelle très, 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 très fortement personnellement et que j'ai envie d'offrir à ma fille aussi parce que je m'aperçois qu'elle est heureuse dès qu'elle est dehors. Et que mais vraiment c'est dingue hein. Tu regardes un enfant, il peut pleurer à l'intérieur, tu le mets dehors. Je me souviens quand elle était petite, tu vois, elle marchait pas encore ni rien, mais elle est encore petite. Elle a 11 mois, donc elle est toujours petite. Mais quand elle était encore plus petite, elle savait pas se déplacer. Donc et parfois, tu vois, elle pleure à l'intérieur. Je la prenais dans mes bras, je sortais dehors sur ma terrasse. J'ai des citronniers et là, elle tendait la main vers le citronnier et je m'approchais du citronnier et paf, elle caressait la feuille et tout de suite elle s'arrêtait de pleurer. Ça marchait à chaque fois. Elle pouvait passer un temps fou à caresser la feuille. Bah, tu te rends compte que physiologiquement, biologiquement, dans le plus profond de nos cellules, on est fait pour passer du temps dehors, quoi. Ça se voit quand tu vois un bébé, la façon dont il se comporte à l'intérieur, VS dehors. Et dès qu'il a l'occasion d'aller dans l'herbe ou dans quoi que ce soit, tu vois que on est vraiment des animaux, quoi. On est là complètement oublié, mais on est des animaux. Et donc, je veux pouvoir lui offrir ça. Et en plus, j'en ai besoin pour moi, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas encore de chèvres, mais j'espère peut-être que dans ce terrain-là, tu vois, avec mes petites poules, etc., j'aurai peut-être des chèvres. Et en plus de quoi, j'adore ta démarche de se dire, eh ben voilà, j'ai envie de voir un petit peu plus comment ça se passe en élevage, pour essayer de faire la lumière entre ce que je pense et la réalité. Et donc de mettre la main à la pâte, de te dire voilà, je vais devenir stagiaire pour voir comment ça se passe vraiment et mettre la main à la pâte. J'ai dit plusieurs fois, j'étais un peu redondant, mais c'est parce que je suis passionné. Je trouve que c'est une super démarche. C'est vraiment une superbe démarche.
Bah écoute, trop content que ça te parle. D'ailleurs, ça fait pas que de parler, ça t'appelle vraiment vu la puissance de la chose. Et puis bah je pense qu'il y a aussi tout l'instinct paternel et tout ce que tu viens de partager qui j'adore très fortement exprimer là. Puis on voit ce que tu veux lui offrir et bah, c'est trop puissant. Bref, juste pour dire trop cool. Et je pense que cette idée de plutôt que de critiquer, vouloir essayer de faire mieux soi-même, c'est la meilleure option. Parce qu'en fait, la plupart des débats stériles viennent de personnes qui n'ancrent pas dans la matière justement leurs idées. T'es vegan, t'es absolument contre tous les élevages industriels, ok, tu proposes quoi? Rien du tout, ferme ta gueule. Je suis désolé, mais c'est un peu tranché, mais justement pour dire que ça coupe les débats stériles, parce que qu'est-ce que tu apportes à part quelque chose qui justement n'est pas un terrain fertile, terrain fertile, bref, dans l'idée, si tu te dis que justement tu es capable de faire quelque chose, la fin d'un livre que beaucoup connaissent, il faut cultiver son jardin, il faut cultiver notre jardin, c'est une analogie sur plusieurs domaines d'ailleurs, je pense que justement on reconnecte tout, parce qu'on n'est absolument pas déconnecté de la nature, on a été déconnecté de la nature via justement différentes choses qu'on retrouve dans ce contrat social, etc. Mais rien ne nous dit qu'on ne peut pas avoir des poules. Si c'est le cas, il y a des mesures à prendre au niveau de votre ville, votre commune, votre machin. Allez vous renseigner, regardez ce qu'il faut faire, obtenez les autorisations, allez habiter là où il faut. C'est toujours possible. Il y a toujours des contraintes. Vous êtes en vie, bravo, vous allez avoir des problèmes. Ok, maintenant le but c'est de les résoudre. Donc ensuite, vous testez, vous allez trouver des solutions et puis vous allez pouvoir mettre la main à la terre, etc. Et tout. Là, je dis en vous, bien sûr, pas parce que je te vouvoie d'un coup, mais parce que je pense que ce discours est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais que ça ait un impact pour tout le monde. Si on arrive à proposer soi-même ne serait-ce que des petites solutions, eh ben on est déjà en train de justement faire un pas dans la bonne direction. Alors que dès le moment qu'on reste dans des débats stériles, ben ça va pas s'ancrer, ça va pas avancer. Et là, je trouve que avoir 2, 3, 4, 5 poules, c'est un des actes politiques les plus puissants qu'on peut avoir. Ça paraît complètement bisounours ce que je dis, mais tu dis, fuck le monde, je veux des protéines de qualité, je veux pouvoir faire mon sport, avoir, je sais pas, 600, 700, 800, 900 grammes de cholestérol comme précurseur hormonal pour optimiser ma testostérone, plus le rétinol qu'on trouve dedans, toutes les vitamines de qualité et tout qu'il y a dans le jaune d'œuf. Un vrai jaune d'œuf, un beau jaune d'œuf qui est différent au niveau du goût, au niveau de ce que ça nous apporte, peut-être même à d'autres niveaux, j'en sais rien, mais quand on mange les œufs de nos poules, c'est un délire comme c'est nourrissant, et je sais pas te dire à quel niveau, mais c'est incroyable. Tu vas chercher l'œuf de ta poule, tu le fais directement après. C'est incroyable. Tu sens tout ce que toi, tu as apporté à tes poules qui te le rendent, et c'est trop beau, c'est trop puissant. Et ça, c'est un acte politique. Parce que tu dis, fuck, vous avez que des propositions de merde au niveau de ce système, au niveau de la viande, au niveau du poisson, niveau... je sais que c'est des protéines avec un aminogramme de qualité. Je sais qu'il y a suffisamment d'acides aminés branchés pour la construction de la masse musculaire. Je sais qu'il y a de la taurine, du sélénium, du iode dans le poisson, que ça peut être intéressant globalement. Peut-être pas un poisson trop gras, mais voilà. Je sais que dans la viande, il y a ça, ça, ça. Peut-être même de la viande encore plus fraîche qui n'a pas été stressée. Il y a même de la vitamine C dedans. Donc tout dépend de l'élevage. Fuck, dans les élevages, il n'y a plus rien d'intéressant dans ces bêtes qui sont en plus stressées, qui sont en plus gonflé d'eau à tous les niveaux, donc au niveau du stress au moment, enfin dans l'abattoir, au niveau de au moment de l'abattage, mais qui ont aussi des injections de différents produits, notamment les crevettes, hein, qui ont peut-être des fois 15, 16 grammes de protéines au lieu de 23, 24 grammes de protéines au 100 grammes, c'est quasiment 100% de protéines, une crevette pour l'exemple. Mais si on voit que 15 grammes de protéines sur un emballage, ça veut dire que il y a des trucs qui ont été rajoutés dedans qui sont juste là pour gonfler la taille de la crevette, et ça se trouve sous un E, je sais pas combien. Et ça se voit dans les différents élevages. On va cuire du poulet, on va cuire du bœuf, on va avoir notre beau steak ou notre belle poitrine de dinde, puis elle va faire plus, elle va être toute rigide après. Et on comprend pas pourquoi. C'est un excès de phosphate, c'est un excès de stress, c'est un excès d'ajout qui a été fait, qui en plus perturbe totalement notre physiologie, parce qu'il y a un équilibre calcium-phosphore à avoir, donc c'est dégradant à tous les niveaux, au niveau de la planète, au niveau psychologique, spirituel peut-être, mais au niveau physiologique clairement aussi. Donc au moins 2 sur 3, si les personnes n'ont aucun niveau de conscience ou d'empathie par rapport aux animaux, au moins 2 niveaux sur 3, ça a un impact négatif, à commencer par nous-mêmes. Donc ça devrait concerner vraiment tout le monde. Donc c'est avec tout ça en fait que je me suis dit, tu veux être en bonne santé, fais pas que du sport à compter tes calories et puis penser que voilà, tant que ça fit tes macros, tu peux vivre une belle vie en ville avec assez de protéines de merde tous les jours parce que c'est ce truc qui compte pour les muscles, on vaut mieux que ça quoi. Et pourtant c'est la base de certaines notions que j'ai du côté scientifique qui sont largement proposées par beaucoup de monde sur internet. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, et cette forme de cohérence en fait, peut-être comme toi, m'appelle plus que c'est pas une contrainte en fait, tu vois, c'est cette recherche de cohérence qui au final me rend plus heureux, et donc il y a même une forme d'égoïsme si certains veulent le voir comme ça. Pour que je me sente mieux, ben je dois être cohérent comme ça, et je pense que je peux rendre aussi plus heureux les personnes autour de moi quand moi-même je suis en bonne forme. C'est le fameux mettez d'abord votre masque à oxygène dans l'avion pour ensuite aider les autres, parce que vous êtes mort, vous pouvez pas aider les autres. Donc votre bien-être en premier, en priorité, si c'est en plus en cohérence avec le reste, ce que j'essaie de développer, bah génial, tout le monde est content. Et vous êtes en fait pas une pièce d'un cancer généralisé, mais vous êtes une pièce qui est là pour justement aider toutes les personnes autour d'elle, à commencer par s'aider soi-même. Donc le meilleur égoïsme, c'est pouvoir être altruiste. Mais pour pouvoir être altruiste, il faut d'abord pouvoir s'aider soi-même, sinon ça ne sert à rien. On est un poids, on est en train de vivre de tel ou tel argent qui nous est déversé parce qu'on est incapacité, et si on est incapacité, on est incapacitant. Voilà, puis, j'arrête de jouer avec les mots.
Dans cet égoïsme, il y a aussi quand même une notion sociale de partage, dans la mesure où, comme tu l'as dit, tu vois, tu donnes de l'amour à tes poules, tu t'y passes du temps pour qu'elles soient en bonne forme et tout, qu'elles te fassent des beaux œufs, ou potentiellement t'as la même chose avec les fruits et légumes de ton jardin si t'as un potager, ou t'as pris du temps de le voir mûrir. Enfin, tu vois, il y a tout un processus derrière qui crée une valeur émotionnelle dans la nourriture que tu vas cueillir, que tu vas récolter. Et donc, si derrière, derrière, déjà, t'as un amour complètement différent de ce que tu vas manger, et tu vas être content de le partager. Enfin, je sais pas toi, mais je suis sûr que si tu m'invites chez toi à manger et que tu me sers un œuf de ta poule de ton jardin, tu auras 100 fois plus de plaisir à me l'offrir que si c'est bêtement une boîte d'œufs que t'as acheté au supermarché, tu vois. Moi, quand j'ai des tomates dans mon jardin, si j'invite, je serais content d'inviter des gens pour leur faire une salade de tomates et dire c'est les tomates de mon jardin que j'ai vu pousser moi-même, tu vois. Enfin, il y a vraiment quand même une dimension sociale, je trouve, de partage dans le fait d'avoir passé du temps à cultiver ta nourriture, que ce soit de la nourriture animale ou végétale, ou à la chasser éventuellement, comme je disais potentiellement tout à l'heure.
Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu finalement totalement à ta question.
Non,
parce qu'on
clairement. Et je vais mettre, je mettrai de toute façon le lien aussi de la vidéo dont tu parlais, que tu as faite sur le sujet, qui permettra d'aller plus en profondeur. J'ai juste peut-être une dernière petite question du coup sur la nourriture.
Oui.
Tu disais tout à l'heure que tu mangeais quand même du foie, c'est ça? Donc tu manges des abats. Pourquoi?
Alors, donc pourquoi est-ce que tu es plus intéressé par le côté physiologique ou la cohérence dans le tout qui prendrait peut-être un peu plus de temps à développer?
Non, plutôt sur le côté physiologique, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas hyper répandu. Moi, par exemple, tu vois, j'achète des poulets bio élevés en plein air, j'en mange de temps en temps, et je garde les carcasses que je fais bouillir derrière pour me faire des bouillons d'os, pour avoir du collagène, de la glycine, etc. Et donc, je pense que, justement, tu vois, aujourd'hui, on achète... des produits animaux en magasin, c'est que des parties de muscles. Le poulet, d'ailleurs, c'est du poulet qui a pas couru beaucoup dehors parce que sinon la viande elle est plus assez tendre. Je veux dire, on a été habitué à manger une viande entre guillemets édulcorée. On nous a enlevé tous les abats, tous les tissus conjonctifs, tous les os, etc. Enfin, c'est de la viande prête à l'emploi, tu vois, mais qui a presque plus rien à voir avec la viande que on était censé manger en tant qu'animal quand on était, par exemple, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. J'y reviens. Quand tu passais 3 jours ou 4 jours à aller courir le mammouth et que t'arrivais à en tuer un, t'allais pas laisser la moitié parce que tu voulais juste la noix dans l'entrecôte ou les parties les plus tendres, le faux filet, etc. Tu vois. Et du coup, on a, je pense, une consommation de viande qui est complètement différente et qui nous prive d'une quantité de nutriments qui pourraient être intéressants. Donc j'ai cité tout à l'heure le collagène, la glycine qui sont plutôt dans les tissus conjonctifs, dans les os, etc. Et comme on mange pas de peau, on mange pas de nerfs, etc. Bah potentiellement on l'a pas, donc c'est quand même con. Et à côté de ça, on va acheter des bouillons cubes qui sont remplis de sel, d'agents de texture, d'arômes artificiels, etc. Même les bio sont dégueulasses, alors que tu peux très bien le faire toi-même en faisant bouillir tes carcasses avec un petit peu de carottes, de céleri, d'oignon et voilà. Là d'ailleurs, pendant qu'on parle, j'en ai un là qui est en train de bouillir. C'est pour ça que j'en parle. Mais donc voilà. Et donc les abats, c'est un autre sujet. Donc le foie, le cœur, etc. J'ai déjà entendu des gens en parler. Sans pour autant rentrer particulièrement dans les détails, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet plutôt physiologiquement justement. Qu'est-ce que ça a à nous apporter? Pourquoi est-ce qu'on devrait en manger?
Ok, alors 3 points. Le premier que je vais prendre en 10 secondes et qui concernera que les personnes qui seront capables d'aller plus loin dans ce domaine. Quand tu mentionnes les chasseurs-cueilleurs, il y a des choses surprenantes qu'on a au niveau de la population à certaines zones de la planète. Pour les curieux, vous pourrez aller voir Göbekli Tepe, notamment une vidéo que vous trouverez sur une chaîne qui s'appelle Planet Raw, Göbekli Tepe, où des personnes sont capables d'ériger un temple absolument incroyable. À une époque, on est censé se battre pour les framboises qu'on est capable de cueillir alors qu'on est censé être totalement nomade. Bref, parenthèse fermée, les curieux vont voir, les autres, c'est égal. Et puis, pour le côté plus physiologique, qu'est-ce que représentent les organes, il y a plein de choses que j'ai en tête. Donc, il y a... on mange de la viande musculaire, qui est un résumé de ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'on sélectionne justement des pièces où on mange que du muscle animal, de la viande musculaire. Et dans cette viande musculaire, il y a plusieurs choses qui posent problème au niveau de l'équilibre. Un, si on décide qu'on est ce que l'on mange, on n'est pas que du muscle. Même si on est un gros bodybuilder, on a aussi du tissu conjonctif, toutes ces choses que tu as mentionnées, donc il faudrait au minimum un équilibre. La version simple, c'est de faire ce que nos grands-mamans faisaient, ce que toi tu fais aussi, c'est des bouillons avec les restes de la partie plutôt musculaire qui a tendance à être plus apprécié d'un point de vue gustatif, qui accompagne les plats, puis ensuite on a le bouillon qui va avec, et on a du coup la gélatine et cet équilibre général, on mange l'animal, mais on le respecte aussi dans sa totalité, on mange le tout. On va aussi manger d'autres choses, prenons des choses un peu plus controversées, d'ailleurs interdites depuis pas si longtemps que ça, 1988, le cou de certains animaux, donc on aura une partie de la glande thyroïdienne aussi, qui fait partie en fait de ce qu'on obtenait, qui est maintenant considéré comme un supplément, mais on l'obtenait probablement en mangeant tout l'animal, ce que les chasseurs respectent beaucoup, beaucoup plus. Si tu tues l'animal, ils vont pas juste dire « Ah, on prend juste ce steak-là et puis on laisse l'animal moisir », il y a la totalité de l'animal qui va être respectée, ou en tout cas beaucoup plus au minimum que les structures industrielles qu'on a maintenant. Et dans tous ces choix-là, revenons aux chasseurs un instant, le foie est une pièce qui est connue des chasseurs qui ont certaines traditions et qui va être justement donnée aux chasseurs parce que c'est une des pièces les plus nutritives. Comment faire pour obtenir des nutriments de qualité pour un humain? On est un mammifère complexe avec quelques critères particuliers, notamment au niveau du cerveau, mais on est de l'ordre des mammifères complexes, complexes plus, on va dire ça comme ça. Un autre mammifère qui stocke lui-même ses nutriments à un endroit, le foie, on le consomme et on obtient des nutriments directement biodisponibles pour un organisme de l'ordre des mammifères complexes.
Donc plutôt que de se dire on obtient de la vitamine E mais A, mais en fait c'est du bêta-carotène et on pense qu'en mangeant des carottes, au lieu de devenir orange, on va convertir ça en rétinol, ce qui est... Voilà, donc attention à vos bouts des doigts, au bout des orteils, quand on mange trop de carottes, vous saurez que vous avez une hyper bêta-caroténose. Alors que si on mange du rétinol qu'on a dans le foie, a priori c'est pas le cas. Ça se voit, les personnes qui sont oranges. Mais la vitamine A dans le foie est directement biodisponible. Les autres vitamines aussi, le cuivre qui est très intéressant et relativement difficile à obtenir dans la plupart des aliments d'origine non animale, c'est aussi une petite pépite. Donc en fait, je dirais que s'il y avait un complément qu'on devait avoir en tant que végétarien, et ça fait bizarre d'appeler ça un complément, et c'est encore plus compliqué à proposer, à suggérer ou à présenter à des végétariens, ce serait le foie qui est souvent en fait simplement jeté. Donc ce qui est fou, c'est qu'on peut se dire, et après chacun choisit comme il veut ses aliments dans le contexte qu'il a, mais on peut même se dire que comme les foies sont jetés, cette pépite de nutriments, la plupart des abats sont jetés, d'ailleurs pas que le foie, mais il y a des organes qui sont quand même assez difficiles à manger, mais le cœur, le foie, ça peut être très intéressant d'en consommer. La glande thyroïdienne, bon bah, plus compliqué parce qu'il y a des régulations derrière, on se demande peut-être pourquoi, mais ça c'est encore un autre débat. Mais je pense que vraiment pour ça, les vitamines et puis globalement ce stockage qui est physiologiquement directement intéressant pour nous, le foie c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et là c'est pas quelque chose de controversé, hein. Les nutritionnistes pratiquants vont tous, si on regarde l'ANSES SICAL, je crois ça s'appelle, cette base francophone où on peut trouver tous les micronutriments, le foie est toujours tout en haut. Donc c'est la pépite de nutriments par excellence, c'est 10 à 20 grammes par jour, disons 70 grammes à 150 grammes par semaine, quelque chose comme ça, 140 grammes par semaine. Ça permet de couvrir nos besoins en certains nutriments très difficiles à obtenir ailleurs. Et c'est surtout pour ça d'un point de vue physiologique. Mais c'est aussi en considérant que si on respecte l'animal, on va pas juste prendre la poitrine de poulet et dégager tout le reste, quoi. Tu peux valoriser la carcasse, tu peux valoriser tout ça. Un dernier point, un animal qui a trop vécu, une des choses qu'on stocke, au fur et à mesure, on peut le stocker dans le tissu adipeux, hein, mais on peut aussi le stocker, le figer au niveau de nos os et de nos dents. Et donc, en fait, certains animaux peuvent avoir une contamination de métaux lourds lorsqu'ils ont trop vécu. Donc, par exemple, des animaux qui vivent dans une région polluée et qui sont plus vieux que les autres vont avoir potentiellement un plus gros potentiel de contamination au niveau des os, du tissu osseux. Et donc un bouillon d'os avec un animal vieux est peut-être plus dangereux que de faire certaines sélections de parties du corps. Par exemple, la queue de bœuf est une partie très riche en gélatine, mais qui ne sera pas contaminée par des éventuels métaux lourds. Donc, par exemple, si en chasse, on tuait un animal vieux, par exemple dans tous les principes que tu as évoqués, que je trouve magnifiques, peut-être que pour cet animal-là, parce qu'il n'y a aucun animal qui vit parfaitement dans la nature à peu de choses près, ce serait mieux de faire un bouillon ou une préparation à partir de la... De queue de bœuf ou de queue de ruminant qui sera très riche en gélatine plutôt que de faire un bouillon d'os trop long qui pourrait extraire pas mal de métaux lourds. Il y a des papiers qu'on peut trouver facilement, lead contamination dans les ruminants un petit peu âgés ou préparation de bouillon d'os, ce genre de choses. Il y a des articles gratuits qui existent sur le projet Résilience si jamais certains veulent aller voir. Là on comprend que c'est bien ces préparations, mais il faut aussi prendre en compte, encore une fois, la physiologie de l'animal lui-même. Et pour le foie, c'est en prenant en compte la physiologie de l'animal lui-même qu'on comprend que c'est mieux de manger un foie d'un ruminant, d'un animal qui a bien vécu, que de manger du foie gras pendant les différentes fêtes de fin d'année qui existent selon les différentes croyances que vous avez et ce que vous fêtez. Je respecte les choix de chacun, mais voilà, le foie gras est un truc qui est largement consommé, mais globalement, on consomme le foie d'un animal malade, qui en plus de ça a tendance à stocker beaucoup plus de graisses polyinsaturées qui sont moins appropriées pour notre physiologie. Donc un foie de ruminant, je pense que c'est une pépite. J'arrivais pas à faire plus court.
Non, mais c'est hyper intéressant. Je suis très content d'avoir posé la question. Il y a plein de. Enfin, j'en retire plein d'idées sur le foie gras de canard, donc le foie malade. Ceux qui en mangent encore peuvent regarder une vidéo de comment sont gavés les canards. Et je pense qu'ils arrêteront d'en manger. C'est la parfaite illustration de ce pourquoi je pense qu'on a été beaucoup trop loin. Et où je me demande comment est-ce que quelqu'un a eu un jour l'idée de faire des choses pareilles, et même comment des gens acceptent encore de travailler dans des trucs comme ça, tu vois. Moi, je parle même pas de le manger parce que du coup, c'est caché, etc. Tu t'en rends pas compte si tu t'y intéresses pas. Mais le faire, tu vois. Enfin, moi, personnellement, je pourrais pas travailler, là-dedans, quoi. Enfin, bon, bref. Et le foie, du coup, tu disais, juste pour terminer sur le sujet, 140 grammes par semaine. 10-20 grammes par jour, donc du coup tu l'achètes en entier, donc par exemple tu achètes ton boucher, tu demandes un foie de bœuf cru, tu le fais cuire comme ça, peut-être au four ou quelque chose comme ça, puis après t'en coupes un petit morceau que tu manges tous les jours.
Alors, il y a plein de possibilités de préparation. La version brève, c'est que comme c'est très riche en nutriments, contrairement à la plupart des trucs qu'on va voir sur les étalages de supermarché qui peuvent tenir très longtemps, on arrive au foie qui tient justement pas très longtemps. Donc, il vaut mieux consommer, je pense, une fois par semaine pour la plupart des nutriments qui vont être non seulement biodisponibles, mais qui vont rester suffisamment longtemps aussi, même en consommant une fois par semaine. Le pseudo optimal de manger un petit peu tous les jours pour être sûr d'avoir tous les nutriments, ça fonctionne pas comme ça. On n'a jamais tous les nutriments disponibles tous les jours. Donc, peut-être que le plus simple, c'est effectivement, comme tu dis, t'achètes la pièce. Par exemple, dans un couple, le plus simple, c'est d'acheter un foie, de consommer la moitié du foie chacun, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, et le problème est réglé. Je pense que c'est le plus simple. Et comme ça, une fois par semaine, par 10 jours, à peu près, on peut faire une préparation qui permet aussi d'accepter la texture, qui est pas toujours aussi évidente pour tout le monde. La viande musculaire est généralement plus appréciée, les abats. C'est, on va dire, beaucoup plus variable au niveau de du goût et des choix de chacun, des goûts de chacun. Et sinon, il existe aussi des méthodes, des personnes qui veulent vraiment préparer le foie, qui mettent des petits morceaux de foie limite en gélules, qui font stocker ça au froid, puis qui les gobent tel quel pour conserver les nutriments. Il y a plein de techniques complètement folles qui existent. Mais je dirais, au plus simple, consommer du foie 2-3 fois par mois, et puis le consommer de sorte à ce que, justement, il n'ait pas le temps de pourrir, de moisir. C'est une bonne chose. Et la deuxième chose, ce serait plutôt de ruminants que de volailles par rapport au profil d'acide gras qu'il y aura derrière, qui est, en tout cas avec ma compréhension actuelle, plus favorable à l'organisme humain.
Parfait. Bah écoute, je vais tester ça avec ma femme. Elle va être contente de mes podcasts et des idées saugrenues que je rapporte à chaque fois. Mais ça va, elle est ouverte aux expériences. Bon, allez, on arrive au dernier sujet de ce podcast avant les petites questions de fin, qui est la lumière rouge. Pourquoi tu l'utilises? Sur quel protocole?
Pourquoi la lumière rouge? En quelques mots, en fait, on a changé les patterns d'exposition de lumière. C'est une manière assez simple de dire que de base, c'est le soleil qui nous éclaire. Et on a remplacé ça par des lumières artificielles qui ont des spectres de lumière. Donc, quand on regarde les couleurs, finalement, c'est une question de longueur d'onde. Donc, il y a des ondes plus ou moins longues. Et puis, en fonction de la longueur d'onde, donc un paramètre vibratoire de longueur d'onde, finalement, on peut avoir quelque chose qui s'exprime en bleu, en vert, en jaune, en rouge, en orange, etc. Et la lumière rouge et infrarouge, quand on dit infra, c'est non visible, c'est quelque chose qui fait partie du spectre du soleil. Le spectre infrarouge, donc non visible mais bien réel, c'est la partie qui chauffe. Et donc ce côté agréable qui fait qu'on peut être en t-shirt, bon, sans forcément en étant aussi adapté que toi au froid, mais en t-shirt dehors alors qu'il y a de la neige autour de nous, c'est le soleil qui nous procure. C'est ce qui nous réchauffe aussi à travers les habits d'ailleurs, c'est le spectre infrarouge. Il y a des chauffages infrarouges qui existent, c'est pas du tout quelque chose de controversé, ça chauffe, point, c'est pas très compliqué. Et donc, si on a un horaire de bureau, qu'on est uniquement exposé à des lumières qui sont essentiellement riches en lumière bleue, comme les phares de voiture, qui sont des concentrés de lumière bleue, c'est pour ça que ça peut faire mal aux yeux pour certaines personnes de conduire la nuit, c'est que du spectre bleu, donc ça défonce complètement, et puis ça nous éveille alors qu'on est censé gentiment aller se préparer à aller dormir. Ça permet de rééquilibrer un décalage par rapport au pattern naturel d'exposition à la lumière et aux différentes couleurs, donc au spectre de lumière qu'on a. La lumière la plus proche qu'on avait du soleil avant qu'elle soit régulée, donc interdite, c'était la lumière incandescente ou de type halogène qu'on voyait, halogène lié aux éléments qui sont utilisés pour la lampe en question. Et du coup, ces lumières-là n'existent plus et c'est quasiment plus que des lampes fluorescentes. Les lampes fluorescentes, c'est ce qu'on va avoir aussi comme stimulus au niveau de l'éveil, notamment vis-à-vis des écrans de la télé, qui est ce pattern de intermittent comme ça, qui permet de juste garder assez longtemps l'éclairage sans pour autant que l'éclairage soit continu, donc on a des économies d'énergie, mais au détriment de notre propre santé, avec un stimulus continu qui fait qu'on reste comme ça, genre suréveillé devant la télé sans s'en rendre compte, comme un peu hypnotisé, ce qui pourrait être intéressant à voir à plusieurs niveaux. Je pense pas que la télé soit la meilleure manière de s'éduquer, mais ça c'est encore autre chose, en tout cas pas de manière proactive et puis intellectuellement honnête. Et là du coup, ces éclairages fluorescents qu'on a sont riches en spectre bleu et totalement dépourvus du spectre rouge et infrarouge. Le spectre rouge a un effet physiologique largement avéré, documenté sur des milliers d'études, dont plusieurs centaines qui sont sur les humains, donc mais des milliers d'études sinon. Et le spectre infrarouge est quelque chose qui a peut-être plus un effet systémique, parce que même si on a un effet qui chauffe par exemple le bras, ça chauffera notamment le sang, parce qu'on est un organisme photoaccepteur, avant tout et surtout parce qu'on est fait essentiellement d'eau, et l'eau est photoaccepteur. Donc même si c'est pas très puissant comme photoaccepteur, c'est quelque chose qui accepte au final beaucoup d'énergie, parce que tout notre corps a une grande quantité d'eau. Donc localement, c'est pas énorme, mais être exposé aux infrarouges, par exemple pour les plus perchés d'entre nous qui font leur yoga face au soleil le matin avec le spectre rouge qui leur arrive dessus, si vous arrivez à faire votre yoga sur votre terrasse en caleçon tranquille le matin, vous allez bénéficier d'un gros chauffage naturel qu'est le soleil et avoir un effet systémique sur le corps, alors que le côté 1 rouge, ça peut être typiquement quelqu'un qui a de l'eczéma quelque part, qui veut juste mettre un petit appareil à lumière rouge quelque part, qui va relancer la respiration cellulaire là-dessus, apporter aussi directement de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on manque cruellement. Donc, on pourrait parler d'une carence en lumière, simplement parce que de base, je pense qu'on était fait pour passer plus de temps à l'extérieur, exposé à la lumière du soleil, avec les variations, bien sûr, qu'on a pendant l'hiver. Donc, stocker une certaine quantité, notamment de la vitamine D, qui est qu'un seul des critères de l'utilité du soleil, pour en avoir assez pour passer l'hiver et ensuite revenir aussi en été, s'exposer à nouveau au soleil, profiter de cet aspect cyclique aussi qui est lié avec tous les différents changements de comportement qu'on a, etc. Peut-être un peu plus un recueil sur soi-même en hiver, puis un comportement un peu plus extraverti, plein d'énergie en été, notamment via ces changements d'exposition à la lumière. Et personnellement, je l'utilise parce que c'est quelque chose qui me permet de rester en bonne santé toute l'année, sans forcément me dire que j'ai autant de soleil en hiver qu'en été et qu'il faut nécessairement l'avoir. C'est pour rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré aujourd'hui, pour faire simple.
Et tu utilises quoi comme protocole ? Parce que tu sais, il y a déjà, t'as quoi comme matériel ?
Aucun problème. Alors, j'ai personnellement une lampe Cytoled, et c'est des lampes, il existe plein de modèles différents, hein, mais l'essentiel, c'est d'avoir, je pense, une lampe qui a autant le spectre rouge que l'infrarouge. Donc, c'est un des modèles qui existe pour ça. Et le protocole est assez simple. En fonction de ce que je fais la journée, donc si je suis exposé au soleil et tout, je m'en fous complètement de ma lumière rouge, et c'est le but, c'est de pas en avoir besoin. Mais si j'ai une journée de travail complète ou quelque chose comme ça, bah ce que je vais faire, c'est que, par exemple, dans mes entraînements quotidiens, si je peux appeler ça des entraînements, je fais du yoga tous les jours, bah pendant le yoga, je mets ma lumière pour compenser mon mauvais pattern d'exposition de la journée. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, en pratique, quand est-ce que je m'arrête, pendant combien de temps et ce genre de choses, j'aime bien le critère de satiété vis-à-vis de la lumière. C'est-à-dire, si on s'expose à la lumière pendant 5 minutes et on se dit « je pourrais m'exposer un peu plus », ben, on reste plus longtemps. Et à un moment, on se dit peut-être au bout de 10, 20, 30, 40 minutes, ça dépend. Là, c'est bon. Je sens que si je m'expose plus, j'aurai juste plus chaud, je transpirerai davantage, voire même ça va un peu m'irriter. Il faut s'arrêter avant ça. Donc, en fait, je m'écoute à nouveau et ça peut varier, mais je dirais entre 10 et 30, 40 minutes par jour lorsque j'ai pas d'exposition du tout au niveau du soleil. Et c'est une lampe qui est quand même qui permet d'exposer, je dirais, la moitié de mon corps à chaque exposition. Donc, c'est pas une toute petite lampe.
Moi, j'ai plus ou moins une lampe de la même taille que toi. Ça s'appelle Biomax 650 de Platinum LED.
Ouais.
Donc du coup, toi, tu t'emmerdes pas à calculer la distance, etc., pour être plutôt sur les tissus profonds ou plutôt pour la peau, à calculer le temps d'exposition justement par rapport au nombre de joules au centimètre carré. Enfin, bon, là, je rentre dans des trucs hyper compliqués, mais tu t'embêtes pas avec tout ça. Tu l'allumes, tu fais ton yoga devant, comme ça, il y a à peu près tout ton corps qui finit par y être exposé. Je suppose que tu fais ça plus ou moins nu. Et du coup, tu t'écoutes et tu voilà. Ok.
C'est ça, mais c'est en ayant en fait en tête tous les critères que tu as mentionnés qui m'ont intéressé. Mais du coup, je me suis dit, ok, ça amène ça comme changement que tu peux contrôler de telle manière et tout. Ça m'emmerde. En pratique, je sais que j'ai assez en faisant comme ça, comme tu viens très bien de le décrire. Et donc, j'ai pas besoin de calculer à chaque fois parce que justement, il y a aussi ce critère qui permet d'éviter tous les calculs, qui permet de s'écouter. Genre, à un moment, t'as plus faim, t'as besoin de compter tes calories à chaque fois. J'ai mangé des bons aliments, je me suis écouté quand je mangeais, c'est les œufs de mes poules, donc je sais qu'on n'a pas ajouté de la merde dedans et je sais pas quoi et tout. J'ai plus faim, cool, arrête de manger. Là, c'est pareil avec le soleil, en fait. Mais les calculs existent et je les connais, ouais. Mais
et t'as remarqué des changements dans ta physiologie, dans ta récupération?
Alors, énorme, au niveau surtout de la peau. En fait, chaque personne va réagir différemment. La période hivernale est très intéressante pour voir s'exposer les premiers symptômes ou les premiers signaux de quelque part il nous manque quelque chose, et ça se manifeste à des endroits différents. Des personnes en hiver ont froid aux mains, froid aux pieds, des personnes perdent leurs cheveux, des personnes ont la libido qui diminue, des personnes ont des problèmes digestifs et des personnes ont des problèmes de peau, par exemple. Moi, c'est les problèmes de peau qui vont venir avant tout le reste. Par exemple, au niveau de mes mains, je vais avoir quelques petites parties qui sont un petit peu plus de type eczéma, psoriasis, ce genre de choses, et la lumière rouge exposée dessus va me permettre de récupérer, de restaurer, on va dire, les paramètres qui ont été empiétés là-dessus. Pas seulement, hein. C'est-à-dire que si je mange pas, je suis stressé et je dors pas, la lumière rouge va faire que dalle, hein. C'est un tout, bien sûr. Mais c'est surtout personnellement au niveau de la peau que je vois l'amélioration de la qualité, et pour certaines personnes que je suis, c'est particulièrement au niveau de la repousse des cheveux C'est très très intéressant. Ça peut être les cheveux, ça peut être la barbe, hein, selon ce que les personnes veulent faire pousser. Plus que, tu vois, un paramètre obscur d'optimisation de 10 kilos de prise de masse musculaire ou quelque chose comme ça. Je pense pas que la lumière rouge va booster tant que ça la synthèse protéique musculaire. Mais je pense que comme aspect global, ça peut être très intéressant. Et personnellement, ça se manifeste surtout dans mes propres faiblesses perso, c'est la qualité de la peau à un moment donné, typiquement en hiver par exemple.
Sur la performance ou la prise de muscle, effectivement, c'est difficile à quantifier. Je suis pas convaincu qu'on y arrive. Par contre, moi, je remarque en termes de récupération musculaire, notamment sur les courbatures, etc., ça marche assez bien si tu la mets sur justement les groupes musculaires qui vont travailler. J'ai des courbatures qui sont beaucoup moins intenses lorsque
je dis. Aussi, mais comme je rejoins tes conclusions, on va pas prendre 10 kilos de muscle avec la lumière rouge, mais ça peut être surprenant au niveau de la récupération. Ouais.
Et du coup, ça te permet quand même de constater que ça marche, tu vois. Ça permet à ton corps, à tes mitochondries, etc., de produire peut-être plus d'énergie, plus d'ATP, et donc à tes cellules de se réparer plus vite. Donc, tu dis que si ça marche d'un point de vue musculaire, ça doit potentiellement avoir des effets physiologiques sur absolument toutes les fonctions physiologiques de ton corps.
J'arrive aux mêmes conclusions.
cool. Bon, écoute, on arrive enfin à la fin. Je dis enfin, mais ça a pas du tout été une torture. Au contraire, j'ai vraiment été passionné par cette conversation. J'aurais eu encore plein de sujets que j'aurais pu aborder, mais ça sera peut-être l'occasion d'un prochain épisode. Normalement, je te demande quels sont un peu tes hacks et tes routines au cours de la journée. Je pense que tu les as déjà pas mal évoqués, à moins qu'il y ait un outil dont on n'ait pas parlé que t'aimerais partager. Je passerai sinon à la suite.
Je pense qu'on en a évoqué pas mal et okay. À moins que tu me le demandes explicitement, j'ai pas de truc comme ça à ajouter tout de suite là.
Non, bah, alors du coup, il y a une nouvelle question que j'aime bien poser depuis que j'ai fait un podcast avec Maxime Barbier qui a fait une bucket list des 100 rêves qu'il voulait réaliser avant de mourir. Est-ce qu'il y a 3 rêves que t'aimerais réaliser et partager avec nous potentiellement ou expérience, on pourrait parler d'expérience qui pourrait peut-être inspirer nos auditeurs.
Alors le premier qui va peut-être inspirer absolument personne, mais c'est un objectif perso, j'ai toujours voulu passer un double backflip, donc si un jour j'arrive à faire rebat, flick flap, double backflip, même sur tapis je serais ravi. Pour moi, j'ai pas encore réussi. J'ai réussi à faire un double front avant de tomber dans une fosse, dans ces trucs où tu peux sauter dans tous les sens et tu te fais pas mal, mais voilà, donc ça c'est fait. Et deux autres, oula, ça laisse une quantité de choses. Alors, j'aimerais bien tendre vers une forme de résilience, indépendance, pseudo-autonomie, je sais pas quoi, au niveau alimentaire, énergétique, ce genre de choses, sans pour autant me dire que voilà, j'ai la prétention d'être tellement riche que je peux acheter ma propre île déserte et puis avoir 3 permaculteurs que je paye sur place pour vivre en autonomie complète avec aussi 5 bunkers au passage en mode survivaliste. Je respecte totalement ceux qui ont ce genre d'idée, hein, y a pas de souci, mais voilà, donc ça, ce serait un peu le deuxième rêve évoqué comme ça en 2 secondes, mais qui prend littéralement toute ma vie dans cette espèce de recherche de cohérence et de simplification, mais pas dans le sens réductionniste du terme, dans le sens revenir à des choses simples, vraies et connectées avec le reste. Et troisième, je dirais, continuer en fait... chaque jour de rester un peu un enfant, certains parlent peut-être d'enfant intérieur ou autre chose, au niveau de ma curiosité, mon enthousiasme, mon émerveillement aussi, et puis pas oublier que voilà, être adulte, c'est pas être trop sérieux dans le sens se prendre trop au sérieux, mais c'est bien justement continuer de voir l'exploration d'un gamin et d'essayer de la garder un maximum pour soi, je dirais, c'est mes 3 rêves, voilà. Le double, cool. Double backflip est peut-être le plus tangible, mais le plus facile à obtenir aussi, finalement.
Ouais, c'est super. Et d'ailleurs, par rapport à ton autonomie, là, je sais pas si t'as un cours d'eau près de chez toi, vu que t'es à la montagne. Mais moi, j'ai acheté il y a pas longtemps un purificateur à gravité qui s'appelle Berkey. Je sais pas si tu connais. Et ça marche très très bien. L'eau est délicieuse. Ça coûte pas très très cher en plus.
Je te recommande aussi. Je les connais et j'en ai à disposition. Ouais. On s'entend. Okay.
Et sur le fait de rester un enfant, ça c'est vraiment une grosse découverte que de cette année pour moi, tu vois. Et notamment grâce à ma fille. Et je redécouvre mon intérieur chez moi comme un espèce de jeu potentiel, tu vois, où je marche à 4 pattes, je saute sur les canapés, etc. Et je me dis, putain, c'est dommage quand même, nos intérieurs sont devenus tellement sérieux, on passe de la chaise de la salle à manger au canapé, alors qu'en réalité, tu pourrais avoir une expérience de vie beaucoup plus marrante chez toi, tu vois, et on a perdu cette capacité à jouer, à se faire des batailles de polochon, à chatouiller sa femme, à marcher à 4 pattes, comme je disais. Enfin bref, donc ouais, carrément, c'est super comme rêve ou même comme leitmotiv pour le reste de ta vie, quoi.
Trop cool. J'oserais te demander un ou trois rêves aussi, ou tu les as déjà exprimés dans un autre podcast et du coup ma question n'est pas intéressante pour tes...
Alors non, personne l'a demandé. Écoute, justement, j'ai une bucket list avec pas mal de rêves que j'ai envie de réaliser. Ça va être difficile de les prioriser. Je pense que pour faire écho à ce que tu dis, celui que tu as sur l'autonomie, je le partage complètement, tant d'un point de vue alimentaire ou comme je te le disais avec mon potager, mes poules, etc. Potentiellement un peu de chasse, un peu de pêche. Ça, c'est vraiment mon idéal de vie, tu vois, de plus potentiellement presque plus rien acheter dans les grandes surfaces et consommer au maximum ce que je produis moi-même ou ce que je vais aller chercher par la force de mes mains. Et tu vois, et si je vais pas chasser, si je vais pas pêcher, ben je mange pas de viande, pas de protéines animales. Et ça me va très bien aussi, tu vois, et comme ça automatiquement ça régule aussi la quantité de protéines animales que tu que t'apportes dans ton alimentation. Donc ça c'est un truc qui m'anime énormément en ce moment. Du coup ça serait potentiellement le premier. Suite à mon expérience là à 4000 mètres, j'aimerais bien faire le Mont Blanc. Je vais d'ailleurs le faire au mois de juillet de l'année prochaine. Je parle de rêves qui sont assez proches, tu vois, du coup, dans ma réalisation, parce qu'il y en a d'autres qui pourraient demander plus de temps. Bah d'ailleurs, un qui pourrait demander plus de temps, ça serait faire le tour du monde en van avec mes enfants. J'aimerais bien attendre qu'ils aient pour l'instant j'en ai qu'une déjà, mais qu'elle soit peut-être qu'elle ait 8 ans, quelque chose comme ça, pour qu'elle puisse quand même interagir avec le monde, s'enrichir elle-même de cette expérience incroyable. Et à la base je voulais le faire en voilier, mais ma femme est pas forcément très chaude que je le fasse en bateau, enfin qu'on le fasse en bateau, donc on s'est rabattu sur le van. Et quelque part j'adore voyager, découvrir de nouveaux endroits, etc. Et j'ai l'impression, le sentiment en tout cas, de pas avoir voyagé autant que je l'aurais aimé, eu égard à mon travail, aussi au fait que ma famille est un peu éclatée partout, et donc souvent quand j'ai des vacances, ben je vais les voir, tu vois, pour leur faire plaisir. Et donc voilà, donc j'ai cette espèce de frustration de pas avoir assez découvert le monde, et une réelle envie d'aller le faire. Et donc même si je me fais des petits voyages comme ça de temps en temps, prendre un an ou un an et demi pour aller vraiment découvrir le monde comme ça. J'aime bien, tu vois, cette idée du van, parce que du coup ça te permet d'improviser aussi le voyage, tu vois, t'as pas besoin de calculer dans quel hôtel tu vas tomber, prendre tel avion, etc. Tu vois, tu peux avoir un côté un peu improvisé, un côté un peu aventurier. J'adore les explorateurs comme Mike Horn, etc. Le fait de vivre des expériences comme ça, et je trouve que bon, de façon beaucoup plus confortable, le van est un peu une expression de cette liberté là.
Trop beau. Puis il y a des trucs incroyables qui existent même pas trop cher. Des vannes qui, tout à coup, tu te poses quelque part, t'étends, t'as une espèce de mini terrasse, puis t'as ton espèce d'habitation au-dessus, et puis tu passes incognito comme ça, puis tu te
coupes. Ouais, c'est ça.
Chez moi.
C'est très bien. C'est très bien.
Beaucoup. Bah, merci de les partager aussi. Ça, je me suis permis, j'espère que ça t'a pas dérangé.
Mais cool. Pas du tout. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et du coup, ouais, l'avant-dernière question que je vais te poser, c'est, t'en as déjà cité quelques-uns, mais enfin quelques auteurs en tout cas d'intérêt qui pourraient enrichir ma réflexion. Mais c'est un livre que tu aimerais m'offrir, et de façon entre guillemets liée, mais pas totalement liée, parce que ça peut être complètement différencié, un prochain invité qui te semblerait intéressant d'inviter.
Oh, génial. Alors, plutôt que des ouvrages, tu parles anglais, juste que je sache si je te...
Oui, enfin, je le comprends bien, mais ça va.
Ok. Si tu comprends bien l'anglais, je pense que la personne la plus avancée au niveau de la physiologie, de la nutrition, avec une approche, je dirais, cohérente, ce qui est pas rien. Je parlerai peut-être de Mike Fave ou de Jay Feldman. Les deux ont des podcasts ensemble qui s'appellent The Energy Balance Podcast, plutôt que... Yes. Voilà, si jamais tu tombes dessus, je pense que ce sera... Alors là, t'en as pour des dizaines d'heures, hein. Je suis désolé pour cette espèce de cadeau empoisonné. Je sais pas combien d'heures si tu veux, mais voilà, je pense que les 7 premiers podcasts, si jamais tu veux vraiment avoir une compréhension de cet équilibre au niveau de l'énergie cellulaire, sont extraordinaires. C'est des pépites, ils partagent une quantité d'informations incroyables. Il y a des show notes qui sont incroyables. Je sais que tu références aussi certains articles, il le fait également, et c'est des pépites pour les personnes qui veulent aller plus loin. Je pense que ça, c'est le premier truc.
Super.
Et ça vient de beaucoup d'articles qui viennent d'une philosophie, d'une espèce d'approche cohérente comme ça, qui a été proposée par quelqu'un controversé, hein, totalement, mais qui s'appelle le docteur Raymond Pete. Mais je pense qu'il synthétise ses idées avec une approche pratique et cohérente dans ce monde vraiment, genre, une compréhension applicable tout de suite dans nos sociétés, tu vois. Et c'est cet aspect extrêmement précieux de pouvoir passer à l'action avec des outils comme ça, qui me fait te parler de cette personne, mais qui n'oublie jamais de mentionner ce premier protagoniste qui est le docteur Raymond Pete. Et ensuite, ta deuxième question, c'était, excuse-moi, je me suis emballé.
Un prochain invité.
Merci.
À me recommander.
Un prochain invité à te recommander. Écoute, s'il accepte, mais j'ai un contact direct avec lui, je dirais Rémi Masson. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ok, c'est un de mes collègues qui est discret, qui n'est pas là sur les réseaux. Pas discret dans le sens, il n'est pas capable d'exprimer des choses extraordinaires, mais qui n'est pas très actif sur les réseaux. Il a une compréhension de la biologie, de la physiologie, de la chimie, qui est extrêmement poussée. Donc, s'il y a un gars qui tu veux demander des détails minutieux pour comprendre ce qui se passe à tel endroit et tout, il va t'envoyer dans un rêve directement. Donc, si tu as besoin, je peux le contacter directement et j'aurais pensé à lui personnellement comme quelqu'un que j'aurais voulu inviter pour étoffer en français des compréhensions sur le plan physiologie, nature, biologie, interaction de l'homme, sa place dans le monde avec tout ce que tu peux voir, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Enfin, tu peux partir dans des délires extraordinaires avec lui.
Trop bien, trop bien. Bah écoute, je prends ta proposition au pied de la lettre. Si tu peux nous mettre en contact, ça serait avec grand plaisir. Me remercier tout à l'heure d'avoir mis en place ce podcast pour te permettre de t'exprimer. Bah au final, je te mets aussi à contribution pour être une voie de passage vers un prochain épisode avec quelqu'un que j'imagine passionnant dans la façon dont tu le présentes. Ouais, et donc j'ai hâte de le rencontrer.
Excuse-moi, je t'ai coupé. Je voulais juste te dire que c'est ma propre référence. Si j'ai des questions, des trucs que je comprends pas, parce que c'est dingue. Jusqu'où il est capable d'aller.
Voilà. Trop cool. Bah écoute, super, je suis super content. Et pour terminer, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu as fait plusieurs ouvrages. Je les mettrai de toute façon en lien dans l'article. Donc tu vois, cet épisode, tu l'as compris maintenant, va être lié avec un article où je vais noter plusieurs citations de choses que tu as dites. Je vais mettre aussi quelques photos pour illustrer si tu as la gentillesse de m'en envoyer. Et je mettrai aussi toutes les références des personnes que tu as citées, des ouvrages, des vidéos. De tes livres à toi et puis de comment on peut te contacter. Est-ce que tu coaches des gens? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Est-ce que tu fais des formations?
Génial. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est vraiment chouette parce que t'es pas obligé de le proposer et j'apprécie beaucoup. Je pense que le plus simple, vu que maintenant j'ai quitté une bonne partie des réseaux sociaux, je ne suis plus sur Facebook, je suis plus sur Instagram, ce serait YouTube et les podcasts, et le tout est de toute façon écrit sur mon site qui est williamsons.ch parce que je suis en Suisse, effectivement je suis né en Suisse aussi, et ça permet de retrouver aussi mes ouvrages et tout ça. Et au niveau des formations, je te donnerai un lien, je crois que c'est formation.williamsons.ch ou quelque chose comme ça, si jamais des personnes veulent aller voir. Donc là ce serait des prestations payantes du coup, où on peut aller voir les différentes formations que je propose moi-même, certains webinaires, notamment sur la température. Donc voilà, et je fais aussi du coaching, on peut me contacter que ce soit via cette plateforme de formation ou mon site internet, si des personnes veulent que je les coache d'une manière ou d'une autre, qu'on voit si c'est possible, il y a un formulaire de contact et voilà quoi.
Trop bien. Bah écoute, je mettrai tous ces liens là de toute façon. Écoute, je te remercie pour ces 2h30. Tu m'avais donné 1h30 à la base. on a dépassé d'une heure. Je suis désolé d'avoir. On est samedi en plus, donc d'avoir bousculé ton week-end. Surtout qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, d'être un peu un taureau à devoir forcer entre guillemets pour faire rentrer toutes les choses qu'on a envie de faire rentrer dans nos journées, parce qu'on est des gens hyper curieux, et donc quand t'es passionné, bah souvent t'as des journées assez remplies. Donc je suis désolé, mais en même temps très heureux que t'aies accepté de passer tout ce temps-là à partager. On a parlé de sujets hyper variés avec des choses très très concrètes à utiliser très facilement dans nos vies, tu vois, des pistes de réflexion comme ça, et en même temps des choses un petit peu plus philosophiques qui permettent d'élever notre pensée. Et plein de ressources qui vont pouvoir continuer cette conversation pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, et je doute pas qu'ils seront nombreux. Donc vraiment un immense merci à toi.
C'est trop cool. Je t'enlève tout soupçon de culpabilité parce que j'ai pris, j'espère, autant de plaisir que toi, mais c'est le sentiment que j'ai à partager ce podcast. Donc on enlève ça. Ça fait partie des tâches que je vais clairement entrer dans une tâche productive, constructive, positive de ma journée. Donc j'ai pris une heure de plus pour quelque chose comme ça, qui m'enlève quelque part quelque chose que j'aurais peut-être eu besoin de faire comme sentiment, tu vois, de productivité personnelle. Donc tu me retires absolument rien de ma journée, tu la nourris au contraire. Donc comme ça t'enlève tout soupçon de culpabilité, et je te remercie également. C'était très agréable d'échanger avec toi, trop cool, merci vraiment.
Merveilleux, à bientôt.
À bientôt, ciao.
Et j'ai hâte de venir goûter tes œufs de poule. Hein.
Avec plaisir, ça va être incroyable.
Allez, on fera un concours d'œufs de poule.
La classe, je pense qu'ils seront bien. Ouais.
Allez, ciao, ciao.
À plus, ciao.
Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.